en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Canal Académie a le plaisir maintenant de vous inviter à parcourir la vie et l'œuvre de l'écrivain André Chanson, né en 1900 à Nîmes. André Chanson nous quitta en 1983. Il mourut à Paris. Il fut élu à l'Académie française en 1956, au fauteuil du baron Seyère. Nous vous proposons ce parcours grâce au livre paru aux éditions Bernard Gilson, intitulé « Le minéral et la fleur », un livre signé François-Pierre Nizeri. François-Pierre Nizeri qui a fait pour vous, auditeurs de Canal Académie, le parcours Bruxelles-Paris, pour être aujourd'hui devant nos micros. François-Pierre Nizeri, bonjour et bonjour. Merci d'être avec nous. François-Pierre Nizeri, vous êtes homme d'écriture et de peinture, dit-on. Vous peignez pour votre distraction personnelle ou cela va un peu plus loin ?
Par nécessité absolue.
Et vous vous investissez dans la peinture abstraite ou dans la peinture figurative ?
Plutôt la peinture abstraite. Mais je fais toujours le lien entre cette peinture abstraite et le mot, et particulièrement le mot de la poésie.
Bien, donc homme d'écriture, comme je le disais, et homme de peinture. Vous êtes français de nationalité, breton de souche et de cœur, et ça vous l'affirmerez bien haut et fort tout à l'heure. Vous êtes marié, père de famille nombreuse, dit-on, on peut savoir. Nombreuse englobe quel chiffre ?
Quatre enfants. Six petits-enfants.
Fantastique. Et à 58 ans, donc vous êtes bien placé pour nous parler de transmission, un mot riche de sens et sur lequel nous reviendrons tout au long de cette émission. Vous êtes auteur de romans et de poésie et vous contribuez régulièrement à la revue littéraire international intitulé Rive-Neuve Continent. Vous vivez à Bruxelles, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et vous exercez le métier de fonctionnaire européen depuis 33 ans. Alors, la question évidente, pourquoi ce travail sur l'œuvre, la vie, sur un monument comme André Chanson ? Quel regard avez-vous voulu poser sur lui ? Un regard personnel, intime, passionné, dit-on, à la lecture de ce livre ? Pourquoi cet ouvrage ?
Parce que c'est d'abord une rencontre.
Une rencontre avec lui, avec l'auteur ?
Une rencontre avec lui, mais une rencontre avec lui à travers sa fille, à travers Frédéric Hébrard. Nous sommes rencontrés, donc en fait, ça date déjà du 20 mars 2001, mais c'était une rencontre extraordinaire. Frédéric Hébrard et Louis Veil étaient venus à Bruxelles pour une conférence à l'Alliance française et... On m'avait demandé à l'époque de présenter cette conférence et de présenter le thème de cette conférence qui était la famille Chanson. Et donc Frédéric était venu à Bruxelles essentiellement pour parler de son père. Et donc je m'étais plongé dans l'œuvre de son père. Je la connaissais, mais je la connaissais aussi et surtout peut-être par une tradition familiale, puisque André Chanson a été directeur des Archives de France, directeur général des Archives de France, et un de mes oncles était le conservateur des Archives de Bretagne. Et a donc été, à ce titre-là, à travailler directement avec André Chanson. Et donc j'avais déjà d'André Chanson une image, mais qui était une image en quelque sorte familiale. Et à partir de là, pour préparer cette rencontre, je me suis plongé dans l'œuvre de l'écrivain Chanson. Et je suis entré par une porte que jamais je n'oublierai. C'est la porte de la Tour de Constance. C'était vraiment ma porte d'entrée dans l'œuvre d'André Chanson. Et pour moi, ça a été un choc. Quelque chose que jamais je ne pourrais oublier parce que on ne rentre pas comme ça. Et on ne sort pas surtout sain et sauf, on ne sort pas le même d'une œuvre aussi forte et d'une œuvre qui raconte les années de prison, de 40 ans de prison, de femmes enfermées par un roi qui se disait soleil. Et qui s'est permis comme ça d'enfermer pendant 40 ans des femmes simplement parce qu'elles avaient la foi huguenote.
Et voici d'ailleurs tout de suite la lecture qui est faite par le comédien Fernand Guyot d'un extrait de La Tour de Constance, un texte qui par ses détails terriblement réalistes nous font comprendre quelle situation d'humiliation et de dégradation physique le pouvoir de l'époque imposa aux malheureuses prisonnières de la Tour de Constance.
Anne Verchamp et ses deux compagnes voyaient de plus en plus nettement le visage de celle qui les accueillait ainsi dans cette lugubre prison. Mais Tout d'un coup, tout ce que leurs yeux pouvaient voir fut comme submergé par une sensation qui abolissait toutes les autres. Elle venait de sentir la terrible odeur qui régnait dans cette salle. C'était comme une odeur de choses en train de mourir, une pestilence immobile, un remugle de poussière et d'eau croupie, de paille qui fermente, de sueur et d'excréments. Était-ce donc cela les souffrances qui devaient être acceptées pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne? Cette puanteur était-elle comme une louange répandue aux pieds du Seigneur? Tout s'abîmait dans ces exhalaisons méphitiques, et la gloire du martyr n'était plus que la soumission de tout l'être à cette infamante puanteur.
Et ça m'a sidéré. Ça m'a plongé dans un abîme de réflexion. Je n'ai pas pu quitter l'œuvre d'André Chanson par la suite. Et quand nous nous sommes rencontrés par la suite le soir de cette conférence avec Frédéric Hébrard, je lui ai dit « je vais en faire un livre ».
Et le livre est né, un livre intitulé « Le minéral et la fleur ». Et justement, au début de ce livre, vous faites la citation suivante, une citation extraite d'un texte, d'un livre passionnant d'André Chanson, « Il faut vivre vieux », un texte célèbre. « Sommes-nous une famille semblable à celle de ces peintres ?» C'est André Chanson qui pose cette question. « Du XVIIIe siècle français ou de ces romanciers anglais dont l'art est la passion majeure ?» Frédéric, donc c'est le père de Frédéric, André Chanson, qui parle, l'académicien qui parle de sa fille. Frédéric a hérité de cette passion. Quand je prends un de ses livres, en parlant des livres de Frédéric, et c'est toujours André Chanson qui nous parle et qui nous fait ses confidences, j'ai l'impression d'être devant un bouquet de fleurs. Comment de mes images à moi, qui tiennent plutôt du minéral, a-t-elle pu passer à cette floraison qui se renouvelle sans cesse ? Cette floraison, cette personne qui fait naître ces fleurs, est avec nous aujourd'hui. Frédéric Hébrard vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric Hébrard.
Bonjour, c'est très impressionnant d'arriver comme un bouquet de fleurs. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai, c'est une chose que mon père trouvait chaque fois que je lui donnais quelque chose de neuf à lire. Mais je suis très flattée d'être un bouquet de fleurs, mais je suis aussi assez minérale. Il y a les fleurs poussent sur du rocher, et je dois dire que la rencontre avec François-Pierre Niserie a été quelque chose, un don du ciel auquel nous ne nous attendions pas du tout, Louis Vel et moi-même. Mais tout d'un coup, nous avons rencontré quelqu'un qui avait besoin de devenir l'intime ami d'André Chanson. Et ça a été des rencontres, des questions, des conversations. Il est venu chez nous dans les Yvelines, il est venu chez nous dans la vieille maison Camisard des Cévennes. Et on lui a dit beaucoup de choses parce qu'on sentait qu'il avait besoin d'être imprégné de tout ce qui pouvait lui donner l'idée de l'individu vivant André Chanson.
Oui, parce qu'à partir de cette découverte de la tour de Constance, qui vous a plongé dans un abîme de réflexion, vous avez souhaité en savoir plus sur André Chanson et entrer dans le personnage, le caractère, le pourquoi de cette écriture et de cet investissement et de cet engagement personnel. Alors justement, on évoquait il y a un instant la fleur et le minéral. Indiquez-nous, après cette investigation que vous avez menée pour mener à bien l'écriture de ce livre, le minéral, André Chanson, pourquoi se définissait-il lui-même ainsi? Pourquoi définissait-il lui-même sa nature profonde comme un minéral?
J'aurais bien aimé qu'il puisse répondre à ma place. Mais si je devais donner une réponse rapide à ce point, c'est compliqué parce que c'est très profond. André Chanson se définissait comme minéral, probablement d'abord parce que c'est un homme des Cévennes. Et les Cévennes, c'est, du moins en tout cas moi, ce que j'en ai vu avec mon regard de breton, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays minéral. C'est un pays minéral et j'ajouterais, et là également, c'est le breton qui parle, et c'est peut-être une des raisons qui a fait que j'ai été fasciné par cette œuvre et par le chemin de vie aussi d'André Chanson, qui sont indissociables, eh bien, c'est que ce pays et en particulier la Cévenne protestante, et il le dit lui-même, c'est le pays du granit. Par opposition à l'autre Cévenne, qui est le pays du calcaire, qui était le pays catholique.
C'est la roche de
l'Égoyle. Et moi, je viens, le bon cateau, je viens d'un pays de granit. Et il y a dans les Cévennes des menhirs et des dolmens. Donc comment est-ce que je ne peux pas me sentir proche de cette roche-là? Et André Chanson, c'est ça d'abord. Il porte la Cévenne en lui. Et il la porte tellement bien que ça devient sa nature profonde. Mais en même temps, et je tiens à faire ce bémol, la fleur est toujours là. Même dans André Chanson lui-même.
Oui,
la fleur est toujours là. Donc, le minéral et la fleur, le titre de ce livre, c'est pas simplement le rapprochement entre le père et la fille, entre André Chanson, Frédéric Hébrard. Il y a de ça, bien sûr. Il y a cette citation que vous avez faite d'Il faut vivre vieux. Mais dans l'œuvre d'André Chanson lui-même, il y a déjà la présence de la fleur, comme dans l'œuvre de Frédéric Hébrard, il y a la présence du minéral.
Mon père était très attaché au granit breton. Et il disait... Quand je suis au bout de la pointe du Raz, je me sens chez moi. Vous avez des fées en Bretagne. Nous n'avons pas de fées, en tout cas pas les protestants, en Cévennes, car la raison, la sévérité protestante ne fait pas bon ménage avec les fées. Mais il y a une chose que la sévérité protestante n'a pas pu écarter, c'est la puissance des forces telluriques de notre pays. Quand je vais sur le tombeau de mes parents, sur la Luzette, sur la montagne, je me couche sur l'herbe rase et je sens monter en moi des forces qui viennent des planètes, exactement comme en Bretagne. Et ça, souvent nous en parlions avec mon père qui avait, beaucoup plus que ma mère qui était très rationaliste, il avait toujours envie de l'impossible, du merveilleux, de la chose inexplicable ou inexpliquée. Et je pense, et c'est du reste pour ça que dans mon dernier livre j'ai mis un personnage essentiel qui est breton, je pense que nous avons des choses profonde, vous savez, par en dessous, par les racines de la terre, nous avons des points communs, les Bretons et les Cévenols.
Je fais lecture de la page 11 de votre ouvrage, François-Pierre Nizeri, Le minéral et la fleur. L'homme, c'est André Chanson, celui qui se dit minéral de caractère et de nature minérale, l'écrivain dont l'œuvre et l'être s'accrochent et se fondent dans la roche de l'Égoyle, au cœur des Cévennes. Et je suis là, aujourd'hui, je vous lis, face à l'énorme caillou qui gît seul, nu et pourtant grandiose, glacé de silence, posé sur ce bout de terre perdu de la Luzette où André Chanson a voulu demeurer à jamais avec Lélette, sa femme. Deux noms inscrits sur le caillou, une seule date de naissance, celle du XXe siècle, une seule date de décès, 1983, et puis le mot, ce mot qui se confond avec les noms et avec la pierre, puisque nous parlions de granit et de pierre, résister, sous la forme et l'orthographe du patois, du vivarais, celle voulue par Marie Durand. Un autre grand personnage que l'on va évoquer dans l'œuvre d'André Chanson. Mais auparavant, François-Pierre Nizeri, pourriez-vous nous tracer à grandes enjambées la vie et l'œuvre de façon chronologique d'André Chanson ?
C'est pas facile de vous dire en deux minutes comme ça une vie pareille. Parce que c'est une vie qui correspond au siècle, au XXe siècle. Elle a couvert tout le XXe siècle, puisqu'il est né à Nîmes, comme vous l'avez dit, il est né à Nîmes en 1900, il est mort à Paris en 1983. Toute sa vie, toute son œuvre, pratiquement, colle avec le XXe siècle. Ce que je voulais dire également pour introduire la vie et l'œuvre d'André Chanson, c'est dire que cette vie et cette œuvre sont indissociables. On ne peut pas séparer l'œuvre de la vie active de l'homme. Et ça, je crois que c'est une caractéristique première d'André Chanson. Si je devais ensuite prendre un ordre chronologique, je dirais que d'abord, la vie et l'œuvre d'André Chanson se décline en trois périodes, à peu près. Il y a d'abord une première période qui est celle de la jeunesse, à peu près de 1920 à 1935, grosso modo. Et c'est une période qui correspond à son entrée dans un métier qui déjà fixe plus ou moins la trame de sa pensée par la suite. Son entrée dans ce métier, c'est le métier de chartiste, d'historien, c'est l'école des chartes, la fameuse école qui forme les chartistes de la France, et où il va rencontrer également son épouse, Lucie Mazoric, qui exerce également ce métier. Donc ça, c'est le métier, les archives et la conservation du patrimoine. Et c'est aussi la période de l'entrée en littérature d'André Chanson avec une trilogie fondatrice de son œuvre et qui, à l'époque, est essentiellement concentrée sur le pays cévenol, sur l'esprit de résistance, mais surtout sur l'ancrage dans le labeur quotidien des hommes et la justice. À travers donc trois livres essentiels qui sont d'abord « Roule bandit » en 1925, Les hommes de la route en 1927 et Le crime des justes, celui qui parle essentiellement de l'idée de justice, en 1928. Ce sont trois romans qui sont parus chez Grasset donc à cette époque. Ensuite, je dirais que la période suivante, c'est la période de l'action et de l'engagement. Il avait commencé avec son entrée, un passage au cabinet de Daladier, mais cette période de sa vie commence véritablement en 1935 lorsqu'il fonde avec plusieurs autres écrivain, Vendredi. Vendredi, c'est un hebdomadaire qui est resté unique en son genre et qui est un hebdomadaire qui se veut à l'époque, en quelque sorte, le bras intellectuel du Front populaire. Il l'a fondé avec une poignée d'écrivains, comme je le disais, dont en particulier Jean Guénaud, mais également avec la collaboration d'autres grands écrivains et en particulier André Gide. Bien entendu, pendant cette période où il s'occupe de Vendredi, où il gère Vendredi. Vendredi était un hebdomadaire qui était en fait dirigé par un trio, et lui était, disons, probablement le primus inter pares de ce trio de gestion et de rédaction de l'hebdomadaire Vendredi. Parallèlement, André Chanson continue d'assumer ses fonctions de conservateur, puisque c'est son métier. Et il le fait au château de Versailles, et jusqu'en 1938, donc aux prémices d'une guerre, où il va véritablement, à ce moment-là, également s'engager comme soldat. Car André Chanson, c'est pas seulement un écrivain, c'est pas seulement même un militant politique, c'est aussi un soldat. Pendant la guerre, il va faire la guerre, bien entendu, et il va nous en parler dans un bouquin qui m'est resté dans ma mémoire comme quelque chose d'assez étonnant, d'assez important, c'est le carnet d'un officier de liaison. Dans ce carnet d'un officier de liaison, on voit à travers le regard de Chanson, d'André Chanson, la guerre sous un autre jour. On la voit comme une arrière-guerre, la partie la plus difficile à sentir d'une guerre, parce que c'est pas exactement la guerre elle-même, c'est tout ce qui se passe en arrière. Et ça, c'est un regard qui m'a beaucoup frappé. Et puis, c'est l'époque également où il accompagne son épouse Lucie Mazauric dans cette extraordinaire aventure du voyage du Louvre, qui sera décrit par Lucie Mazauric dans son ouvrage Le voyage du Louvre. Période de l'occupation pendant laquelle André Chanson va s'abstenir d'écrire véritablement. Mais il y a quand même un ouvrage de cette période qui relate la période de l'occupation à Montauban en particulier, qui est extrêmement important, qui est le Puy des Miracles. Le Puy des Miracles, c'est le regard d'André Chanson sur l'occupation, et c'est un regard effrayant, effroyable. Un bouquin dont on reste également, dont on sort également tout à fait différent. Et pendant cette période-là, donc, Frédéric Hébrard accompagne ses parents. Et de cette période naîtra également un troisième ouvrage qui est La Chambre de Goethe. Et donc c'est une période qui est extrêmement importante parce que c'est la période pendant laquelle la famille Chanson va se rassembler par l'écriture avec trois regards différents sur la même période. Et moi je crois qu'il faut lire ces trois livres ensemble en quelque sorte. Le Voyage du Louvre, Le Puy des Miracles et La Chambre de Goethe. Trois regards très différents, le père, la mère, la fille. C'est quelque chose qui mérite d'être lu et relu. Ensuite, il faut quand même également rappeler qu'à la fin de la guerre, André Chanson a participé à un événement capital pour la France qui est la reconquête. En particulier en participant avec André Malraux à la campagne de la brigade Alsace-Lorraine. Et là, on a eu l'occasion également... Et il le racontera plus tard dans un ouvrage qu'il faut également lire, mais il faut lire tous les ouvrages de Chanson de toute façon. C'est La Reconquête. La Reconquête ne sera publiée qu'en 1975, d'ailleurs, donc beaucoup plus tard. Mais c'est l'ouvrage dans lequel l'homme Chanson, le soldat Chanson apparaît clairement. Et c'est également quelque chose qu'il faut lire. Maintenant, j'en viens à la troisième période, qui est celle de l'après-guerre, et qui est d'abord, je dirais, celle de l'héritage. Et en particulier, le regard attendri d'André Chanson sur l'éclosion théâtrale et littéraire de sa fille Frédérique Hébrard. Et également sur les affres et les espérances de la nouvelle génération, à travers notamment deux romans qui sont superbes et qui posent le problème du regard d'une génération sur l'autre comme je l'avais rarement lu. La neige et la fleur d'abord, Gallimard 1951, et ensuite, chez le même éditeur, en 1961, 10 ans plus tard, Le rendez-vous des espérances. Et ça, c'est une œuvre qui en dit long sur les nouvelles générations, même si c'était en 1961, donc il y a longtemps. Mais il n'empêche, quand on voit actuellement certaines choses à la télévision, Star Academy, des choses comme ça, eh bien, c'est prémonitoire. C'est prémonitoire. Il faut lire ce livre également. Et puis, André Chanson est à ce moment-là également, et il ne faut pas l'oublier non plus, nommé directeur général des Archives de France en 1959. Il entre à l'Académie française en 1956. Et donc, maintenant, dans cette période-là, pour lui, c'est un petit peu en quelque sorte la consécration, et également, en littérature, le retour aux sources. À travers, d'abord, deux très belles autobiographies, Le chiffre de nos jours et Devenir ce qu'on est. Le chiffre de nos jours qui est paru chez Gallimard en 54 et Devenir ce qu'on est un peu plus tard chez Westmalle Charlier en 59. Et puis alors là, on arrive, à mon avis, au sommet de l'œuvre d'André Chanson. Ce sommet, c'est trois monuments. Sommet, monument, oui bon, mais trois monuments quand même. La Superbe, parue en 1967 chez Plon, qui relate donc le calvaire des galériens pour la foi.
Le comédien Fernand Guyot va nous lire un extrait de La Superbe, un extrait au cours duquel l'aumônier, à bord de la galère, supplie les galériens protestants d'enlever leurs bonnets, d'assister à la messe. « Ce qu'on vous demande est peu de choses », leur dit-il. Écoutons la réponse des galériens, parmi lesquels se trouvait l'ancêtre d'André Chanson.
Pendant toute la semaine, M. Jean Bion supplia les galériens pour la foi d'ôter leur bonnet et de se mettre à genoux la prochaine fois qu'ils diraient la messe. « C'est nous obliger à faire les hypocrites, » répondirent-ils aux malheureux aumôniers. « Vous savez bien que ces simagrées nous sont en horreur. Ce n'est pas avec la bouche que le chrétien peut recevoir son sauveur, mais par l'esprit de la foi. Ce serait pour nous douter de la grâce que de rendre hommage aux superstitions de la Babylone romaine. » « Allons, messieurs, leur disait l'ancien curé durci, ce qu'on vous demande est peu de choses. Il ne s'agit pas de renier vos croyances, mais d'obéir aux ordres du roi. N'est-ce pas saint Paul qui a dit que celui qui résiste aux puissances résiste à Dieu même? Ne voulez-vous pas l'écouter? Le roi est le maître de nos corps. « Mais jamais il ne le sera de nos consciences, » répondaient les domestiques de Dieu. « C'est pour l'affirmer que nous demeurons ici et que nos cœurs sont joyeux d'endurer toutes les souffrances et tous les tourments qu'on nous force à y subir. Malheureux, on veut vous passer à la bastonnade. » « Eh bien, monsieur, c'est que Dieu veut nous éprouver et nous donner l'occasion de souffrir avec constance. »
Dans cette trilogie de chefs-d'œuvre, François-Pierre Nisery, vous placez ensuite La Tour de Constance.
La Tour de Constance, parue chez Plon également en 1970, qui évoque l'enfermement des prisonnières des Huguenots, dont en particulier Marie Durand, 40 années d'enfermement, et qui écrira dans sa prison le fameux mot « régisté ».
Retrouvons quelques instants Marie Durand, au milieu de ses concerts d'infortune, grâce à la lecture d'un extrait de ce livre, La Tour de Constance, au cours duquel nous entendrons des phrases telles que « Il ne faut jamais céder aux persécuteurs. Il nous faut sauver en nous le dépôt sacré de la foi, même s'il nous faut rester 1000 ans dans ce sépulcre. »
Aucune des prisonnières n'aurait pu dire à quel moment une de leurs compagnes avait gravé sur la pierre de cette margelle, sans doute avec une pointe de ciseau, une épingle à cheveux ou un petit couteau de poche, face au grand jour qui venait de la logette, un mot qui semblait s'effacer et réapparaître sous les jeux de la lumière. Mais elles aimaient à le lire de temps en temps, à voix haute, comme pour affirmer sa présence. Résister. À droite de cette inscription, on pouvait voir aussi, un peu plus difficilement, deux autres mots, gravé à peu près de la même manière, mais avec une incision moins profonde. Bien souvent, celle qui venait de lire l'ordre que semblait donner le premier mot ajoutait, d'une voix changée, comme si elle avait voulu prendre acte d'une promesse, « Au ciel !» Personne ne se souvenait vraiment plus de celle qui, la première, avait tracé ces deux inscriptions. Toutes les captives avaient passé et repassé bien souvent le bout de leurs ongles ou la pointe d'un bâtonnet dans le dessin déjà fait, et ce dessin n'appartenait plus à personne. « Marie, ce n'est pas toi qui as mis ces mots dans la pierre ?» demandait parfois la gaussante à Marie Durand. « Il y en a qui disent, et ce qui me le ferait croire, c'est que nous ne sommes pas beaucoup à savoir écrire. » « mais non, répondait Marie, ce n'est pas moi. Il m'est simplement arrivé de passer le bout de mon ongle dans le creux de ces lettres pour en enlever la poussière. » « Alors, c'est peut-être toi la gaussante, disait Enette Saliège. « Tu fais semblant de ne pas savoir qui a pu écrire ces mots, mais tu dois savoir à quoi t'en tenir. »«
Que de nom, grondait la vieille femme. » Et la preuve, c'est que, sans être bien savante, si j'avais voulu écrire ce mot, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Ce n'est pas « résister » qu'il faut dire, mais « résister ».
« Ne faut pas dire « résister », demandèrent d'une seule voix Marie Durand, Isabeau Menet et Marie Vidal.
« Mais si, bien certes, c'est « résister » qu'il faut dire. À parler comme nous le faisons chez nous, on ne dirait pas « faut résista », mais « faux régista ».«
Si, bien sûr, répondit Enette Saliège. Dans mon pays de Vébron, nous dirions « faux régista ».«
À Nîmes aussi, affirma Suzanne Bouzigue. »
La vérité fit observer la gaussante, en balançant sa longue figure osseuse, creusée de rides et tachée de noir. La vérité, c'est que ce sont les gens du Vivarais qui parlent de cette manière. Je l'avais remarqué avec des cousines de mon mari, des filles du pays des Boutières. Elles avaient l'air d'avoir un défaut de langue. Celle qui a écrit ce mot comme ça était sûrement d'en parler là-haut, et si ce n'est pas Marie Durand elle-même, ça doit être une des femmes de son pays. Jamais une Nîmoise ou une Rayole n'aurait écrit ce mot comme ça.
Écrit d'une manière ou de l'autre, il veut toujours dire la même chose, affirma Enette Saliège en serrant, comme elle avait pris l'habitude de le faire, la pointe de son menton dans ses mains crispées.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Demanda la gaussante, figée dans une immobilité de spectre.
Cela veut dire, répondit Marie Durand très lentement, en cherchant chacun de ses mots, cela veut dire qu'il ne faut jamais céder aux persécuteurs.
Bien dit, souffla la gaussante.
Cela veut dire aussi, reprit Marie avec un débit saccadé, qu'il nous faut chercher le règne de Dieu et sa justice, qu'il nous faut délaisser nos voies humaines et retourner à l'Éternel.
Encore mieux dit, souffla de nouveau la gaussante.
Cela veut dire enfin qu'il nous faut sauver en nous le dépôt sacré de la foi, sans jamais nous renier, même si nous devons, pour cela, rester 1000 ans dans ce sépulcre.
Dans le discours qu'André Chanson prononça en 1935 à l'Assemblée du Désert, il évoque ce mot gravé dans la roche de la tour de Constance. Écoutons-le dans la voix du comédien Fernand Guyot.
Tant que l'homme sera capable d'imposer de la souffrance ou de faire subir une oppression aux autres hommes, cet exemple des Cévennes gardera toute sa valeur enseignante. Car le pouvoir que l'homme a de faire souffrir ses semblables ou de les abaisser dans leur conscience et dans leur chair ne peut être vaincu que par la capacité de surmonter la souffrance et de la subir sans en tenir aucun compte. Nous trouvons ici le mot qui nous livre le secret de nos Cévennes. Le mot qui est gravé sur la pierre de la tour de Constance et que le vent semble siffler sur les roches ou dans les herbes dures de nos hautes crêtes, par-delà le jardin de Dieu, sur les hauteurs de l'Aigoual ou de la Fajolle. Le mot que l'on répète aux petits-enfants dans toutes les maisons de nos vallées, le mot qui semble inscrit dans ce vallon et dans ce petit village. Résister. Et résister, c'est sans doute combattre. Mais c'est aussi faire plus. C'est se refuser d'avance à accepter la loi de la défaite. Voilà l'exemple que nos Cévennes donnent à l'homme. Elles lui disent, par toute leur structure, par toute leur histoire, par toute leur humanité, que résister, c'est d'abord ne pas s'arrêter à la persécution, ni à la calomnie, ni à l'injure. Puis, s'il le faut, que c'est combattre. Et puis, vainqueur ou vaincu, que c'est résister quand même, c'est-à-dire rester semblable à ce que l'on est jusque dans la défaite et jusque dans les fers. Le grand exemple, ce que j'appelais voici un instant le secret des Cévennes, c'est de montrer que l'homme ne peut pas être abaissé, ni confondu, ni enchaîné par des moyens humains.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Nous évoquons pour vous en ce moment l'œuvre d'André Chanson en compagnie de François-Pierre Nisery et de Frédéric Hébrard, la fille d'André Chanson. François-Pierre Nisery, vous nous avez cité les deux premiers livres de cette trilogie des monuments littéraires d'André Chanson, La Superbe et La Tour de Constance. Quel est le troisième ?
Le troisième tome, en quelque sorte, de cette trilogie, c'est Les Taillons et la Terreur Blanche, paru en 1974 chez Plon, qui est un ouvrage particulier dans cette trilogie parce que là, c'est vraiment l'ouvrage où André Chanson touche de près le concept du mal et du mal absolu. Cet ouvrage reste comme une question. Je ne sais pas si c'est la question finale, mais c'est la question qu'André Chanson pose à la fin de sa vie.
C'est son dernier ouvrage ?
Non, ce n'est pas son dernier ouvrage, il y en a d'autres après. Il a publié encore d'autres romans sur la source, la mémoire Cévenol, la mémoire protestante. Mais disons que pour moi, c'est cette trilogie d'ouvrages, La Tour de Constance, La Superbe et Les Taillons, c'est vraiment, je dois dire, le sommet. Et je mets La Tour de Constance quand même au sommet des sommets, parce que c'est, je vous dis, c'est bouleversant. Vous ne pouvez pas rentrer dans cet ouvrage sans en tirer quelque chose qui vous marque pour toute la vie. Je suis marqué pour toute la vie par André Chanson.
Pour que nos auditeurs aient la chance de l'être à leur tour, indiquons-leur également la réédition de tous ces ouvrages aux éditions Omnibus. Trois tomes, Les Livres de la Guerre.
C'est le dernier.
Le Livre des Cévennes.
Oui.
Et la suite Camisarde.
Voilà.
Donc aux éditions Omnibus.
Je voudrais citer également l'ultime parole d'André Chanson, ce qui est en quelque sorte son testament littéraire et d'homme d'action. Il faut vivre vieux. C'est un livre, c'est son dernier livre qui sera publié après sa mort en 1984 chez Grasset. C'est aussi un livre qui dit plein de choses.
François-Pierre Nisery, dans votre ouvrage « Le minéral et la fleur », vous nous invitez, en quelque sorte, vous l'écrivez en quatrième de couverture de ce livre, paru aux éditions Bernard Gilson, vous nous invitez à la redécouverte d'une démarche très actuelle, écrivez-vous, celle qui place la liberté de conscience et la mémoire des hommes au cœur de la pensée moderne. Cette liberté de conscience, André Chanson l'a visitée, l'a revisitée à travers tous les maux engendrés par la guerre. Une guerre qui l'a meurtri, mais dans laquelle il s'est engagé, dans laquelle il a fait acte de résistance. Vous écrivez en page 127 « Qu'est-ce que la guerre ? Qu'est-ce que la guerre en 14 ? Qu'est-ce que la guerre en 41-42 ? Qu'est-ce qu'une ville en guerre ? Ce n'est plus la guerre en uniforme, la guerre des soldats casqués, bottés, harnachés et armés, c'est l'arrière-guerre, la guerre des âmes en peine, la lutte pour la seule survie du corps, le gouffre de malheur des pays perdus, obscurcis, ruinés, frappés de déchéance, réduits à la servitude, à la mendicité, abolis dans leur être et dans leur chair. Et pour répondre à l'ignoble, il n'y a que la colère, une colère qui est un cri, et n'appelle pas la violence. La colère du juste, confrontée aux abîmes de l'âme, est une colère sacrée. Quelle est la colère ? Quelle est cette colère dont nous parle André Chanson ?
Là, cette colère-là, c'est la colère du puits des miracles. C'est effectivement un cri. Un cri face à une situation qui est presque indescriptible. Quelque chose qui va jusqu'au plus bas de l'âme humaine.
Mais vous dites, ce cri, cette colère, elle va au-delà de la haine, elle est au-delà de la violence.
Elle est au-delà de la haine parce que, précisément, le combat d'André Chanson est d'abord et avant tout un combat de l'esprit. La résistance est une résistance de l'esprit. La liberté est d'abord et avant tout une liberté de l'esprit. La liberté de conscience est la mère de toutes les libertés.
Et dans son livre « Le Puits des Miracles » que vous citiez, avant d'être une cour des miracles, écrivez-vous, c'est d'abord un puits, un trou où s'enfouissent les pires bassesses de l'âme humaine. Et là, depuis le tueur de chiens, en passant tous les personnages, toute cette phénoménale pléiade de portraits que nous offre André Chanson, une galerie de portraits mais qui nous choque et qui nous marque et qui reste dans les esprits quand nous les avons vus vivre, agir devant nous, eh bien ce n'est pas la misère qui se nourrit de la misère, écrivez-vous, c'est la lâcheté, la cupidité, l'imbécilité réunies qui s'en rassasient, qui s'en réjouissent et fondent ainsi l'ordre nouveau de la France vichysoise.
Oui, nous ne sommes plus aujourd'hui sous le régime de Vichy, mais nous ferions bien de méditer cette situation-là. Nous ne sommes plus dans l'arrière-guerre, mais il y a des moments où je me demande si on n'en est pas si loin parfois.
Il parle des profiteurs du désespoir.
Il y en a.
Ce cri de colère, c'est contre cette horde de charognards, toujours prêts à exploiter bassesse et lâcheté qui font partie de notre humanité dans des situations de conflit, dans des situations graves.
Moi, je voudrais dire quelque chose, parce que j'étais là, j'étais petite, j'étais une petite fille, mais j'ai assisté à la naissance de ce cri, et c'était un cri d'une immense douleur, parce que mon père avait décidé qu'il ne publierait rien tant que l'occupant serait là. François, vous parliez du régime de Vichy, mais le régime de Vichy, c'est pas suffisant. Le régime de Vichy ne tenait vaguement sur ses pattes que parce qu'il y avait l'occupant et qu'il y avait la mort au bout de la résistance et au bout du désir de liberté et du désir d'expression. Et mon père ne voulait absolument pas demander un imprimatur à l'occupant, puisque c'était comme ça que ça se passait. On ne pouvait pas publier si on n'avait pas le droit de le faire. Et il n'a pas cessé d'écrire tous les jours pendant la présence de l'occupant avec ce courage de dire « je ne publierai pas ». Mais c'était horrible, parce que rien ne lui disait qu'il serait encore là le jour où il pourrait être publié. Et tout le spectacle de cet avilissement quotidien des gens qui s'engouffraient dans la bassesse, dans le marché noir, dans la haine de la France et ce qu'elle représente, tout en disant « travail, famille, patrie », c'était un spectacle terrible. J'avais pas tous les éléments parce que j'étais trop jeune pour comprendre ce qu'il vivait, mais je le sentais. Et tout est ressorti en vous écoutant. Tout d'un coup, je le vois à table. Je faisais mes devoirs sur la table où il écrivait Le Puits des Miracles. Et je vois cet homme se disant, est-ce que je verrai la fin de ça?
François-Pierre Nisry, vous écrivez, mais au bout de la colère, il y a la lumière. Et au cœur de la fureur, il y a l'espérance. L'abîme où André Chanson va puiser le miracle, écrivez-vous, c'est déjà celui où il ira chercher plus tard, dans la mémoire de l'histoire, la flamme de résistance de Marie Durand.
C'est pour ça que ce cri qu'il pousse, parce que c'est un cri terrible, c'est pas un cri de haine. Parce que la haine conduit au désespoir. La haine conduit au pessimisme absolu. Et même si André Chanson se définit lui-même comme pessimiste, il est en définitive, en réalité, profondément optimiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours au fond du puits la lumière. Et cette lumière en particulier, c'est celle des enfants. Mmh. Les enfants font tout espérer. Et c'est pour ça que j'ai terminé ce chapitre avec les enfants. Mes petits-enfants, Victor, Vell, et puis l'enfant que j'ai été et qui était derrière le cercueil de son père, derrière la voiture à cheval.
Dans l'œuvre de résistance d'André Chanson, vous revisitez celle qu'a parcouru votre propre père. Là aussi, il y a un lien, une parenté.
Une parenté dans l'acte de résistance. Dans l'acte de résistance qui est aussi un acte de guerre et qu'il ne faut pas renier. La guerre, c'est la guerre. Et la résistance est aussi un acte de guerre. Même si, encore une fois, la résistance d'André Chanson est d'abord et avant tout une résistance de l'esprit. Oui. Je pense que mon père aurait partagé ça aussi.
Oui. Vous parliez de la haine tout à l'heure. C'est vrai, je n'ai jamais vu mon père haïr quelqu'un. Mais je l'ai vu souvent furieux. Mais hors de lui, déchaîné, même pas très diplomate des fois. Mais c'est vrai qu'il avait le courage de ses fureurs.
Courage, François-Pierre Nizeri, vous écrivez à cause et pendant cette guerre, point de doute, le pacifiste qu'était André Chanson doit se taire, le bras de chair doit parler. Là, il a été net, il a toujours pris position. Malgré son pacifisme.
Oui, jusqu'au bout, parce que moi je me souviens d'une rencontre pendant une permission de papa quand il était à la brigade Alsace-Lorraine. Il était venu 3 jours pour chercher des souliers et des uniformes pour les gars de la brigade qui étaient vraiment des va-nu-pieds. Et Sartre lui avait donné rendez-vous au café de Flore, et comme il avait 3 jours, mon père était venu avec ma mère et moi. On voulait profiter un maximum de cette présence, de la présence d'un homme qui pouvait mourir le lendemain puisqu'il repartait à la guerre. Et Sartre était furieux qu'André Chanson ne s'arrête pas de se battre, comme si c'était quelque chose de mineur, comme s'il y avait des sous-hommes pour finir la guerre.
Vous soulignez cette attitude-là par le terme de mission sacrée.
Absolument. Mission sacrée, mais je voudrais dire une chose, non pas sur la mission sacrée, mais c'est là précisément sous ce thème-là qu'on ne peut pas dissocier l'œuvre et l'homme, et le parcours, le chemin. Ça a commencé avec Roule-Bandit, qui est un roman pacifiste, puisque c'est un roman qui décrit l'aventure d'un objecteur de conscience. Un objecteur de conscience. Tu ne tueras point. Et pour lequel la résistance est un acte de l'esprit.
Écoutons dans le roman La Superbe d'André Chanson, les galériens protestants nous parler de résistance, de combat, du bras de l'homme, de ce bras de chair que vous venez d'évoquer, François-Pierre Nizeri.
Pendant toute la semaine, M. Jean Bion supplia les galériens pour la foi d'ôter leurs bonnets et de se mettre à genoux la prochaine fois qu'il dirait la messe. « C'est nous obliger à faire les hypocrites, » répondirent-ils aux malheureux aumôniers. « Vous savez bien que ces simagrées nous sont en horreur. Ce n'est pas avec la bouche que le chrétien peut recevoir son sauveur, mais par l'esprit de la foi. Ce serait pour nous douter de la grâce que de rendre hommage aux superstitions de la Babylone romaine. » « Allons, messieurs, leur disait l'ancien curé durci, ce qu'on vous demande est peu de chose. Il ne s'agit pas de renier vos croyances, mais d'obéir aux ordres du roi. N'est-ce pas saint Paul qui a dit que celui qui résiste aux puissances résiste à Dieu même? Ne voulez-vous pas l'écouter? Le roi est le maître de nos corps. « Mais jamais il ne le sera de nos consciences, » répondaient les domestiques de Dieu. « C'est pour l'affirmer que nous demeurons ici et que nos cœurs sont joyeux d'endurer toutes les souffrances et tous les tourments qu'on nous force à y subir. Malheureux, on veut vous passer à la bastonnade. »« Eh bien, monsieur, c'est que Dieu veut nous éprouver et nous donner l'occasion de souffrir avec constance. »
Il y a une très belle phrase que vous écrivez, François-Pierre Nizeri, page 18 de votre livre « Le minéral et la fleur ». André Chanson, camisard de toujours, a certes lui-même pris les armes, mais son combat était celui de la résistance de l'esprit. La violence à laquelle il a un jour consenti comme tant d'autres était l'ultime recours pour échapper à l'anéantissement, à l'humiliation suprême, celle qui écrase l'âme et ne laisse qu'un corps nu et sans communion au monde.
Et j'ajoute que cet esprit de résistance, qui est donc le cœur du message de la pensée d'André Chanson, c'est un esprit de résistance qui ne s'adresse pas simplement à une autorité, entre guillemets, extérieure. On ne résiste pas nécessairement uniquement par rapport à un oppresseur qu'on peut désigner derrière le mur, derrière la montagne, peu importe. On résiste d'abord et avant tout peut-être à soi-même.
Oui.
On résiste au mal, au désir animal que chacun porte en nous. C'est ça la résistance et c'est ça la liberté.
Oui, et c'est dit dans son premier discours au musée du désert.
Absolument.
que résister, c'est accepter de rester soi-même, même dans les fers et dans la défaite. Et il l'avait quand même écrit en 1935, prophétique, race de prophètes du reste. Et c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est écrit au début de l'occupation.
Oui, vous posez des questions tout à fait d'actualité, page 136 de votre livre, François-Pierre Nizeri. Qu'est-ce qu'un rebelle? Qu'est-ce qu'un terroriste? Les Palestiniens qui luttent pour conquérir le droit d'être eux-mêmes, sont-ils tous des terroristes? Les résistants des maquis étaient des terroristes aux yeux de Vichy. Les camisards et les huguenots en révolte qui tuèrent l'abbé du Quéla étaient des terroristes aux yeux de la religion dominante et de son bras armé royal. Qu'est-ce qu'un juste? Qu'est-ce qu'un salaud? Il faudra bien un jour se demander pourquoi le terroriste le plus recherché du monde actuellement est considéré par certains comme un héros de résistance. Là est la question.
Là est la question, effectivement, mais ça veut dire que on ne peut pas se contenter, dans le monde tel qu'on le vit actuellement, de visions simplistes qui mettraient d'un côté le mal et de l'autre le bien.
Tant qu'il y aura de l'humiliation, il y aura de la guerre, écrivez-vous, du meurtre, de la violence, de la haine, du terrorisme et donc de la terreur.
La clé du futur de ce monde, c'est de combattre l'humiliation. Je ne pense pas qu'on a encore, au jour d'aujourd'hui, trouvé les réponses.
À côté de ce mot « résistance », il en est un autre tout aussi important dans l'œuvre d'André Chanson, François-Pierre Nizeri.
C'est le mot « liberté », parce que la liberté, selon André Chanson, a une signification qui n'est pas celle que tout le monde donne au mot « liberté ».
Le cas de Roulbandi et d'un camisard, ce n'est pas du tout la même chose. Roulbandi, on l'envoie à la guerre tuer des Allemands. Et on lui a dit « tu ne tueras point ». Tandis que le camisard, lui, est agressé sur son territoire, dans sa chair, dans sa famille, sa femme, ses enfants, son père, sa sœur, sa mère. Et le camisard, je pense que Roulbandi aurait pris les armes s'il avait vécu au temps des camisards. Mais là, tout d'un coup, il comprend pas. Il peut pas se représenter l'être ennemi.
Exactement. Tout à fait ça.
Il est dans une sorte de désert, écrivez-vous. C'est dans ce désert que Roux, le déserteur, est mis à l'épreuve, humilié, pourchassé, pour qu'il garde intact en lui le commandement de ne point tuer.
Je crois que, protestants et catholiques, nous n'avons pas numéroté de la même façon les commandements. Tu ne tueras point, pour vous, catholiques. C'est quel numéro?
Oh là, une question que je...
Cinquième commandement, et pour nous, c'est le sixième. Collé. Et les juifs sont parfois comme les catholiques ou parfois comme les protestants. C'est très troublant, je trouve.
Vous avez parlé du désert.
Nous avons commencé à évoquer le désert. Mais vous parliez juste auparavant de liberté. Il s'agit de la liberté de conscience.
La liberté de conscience, elle est partout. Elle est dans toute l'œuvre d'André Chanson. Donc c'est la mère des libertés. C'est la mère des libertés selon un concept de liberté qu'il faut, à mon avis, expliquer un petit peu. Je voudrais dire d'abord ce que n'est pas la liberté selon André Chanson. Il y a trois choses que la liberté n'est pas. La liberté n'est certainement pas l'assouvissement sans limite des désirs de l'homme. Autrement dit, c'est le contraire de l'animalité. Et dans notre époque actuelle, bien souvent, la liberté, c'est la liberté de faire tout et n'importe quoi, y compris le pire, puisqu'on est libre. C'est la liberté éventuellement d'exprimer tout et n'importe quoi. Sous couvert de liberté d'expression, on sait ce qui se passe. Et puis, en deuxième lieu, la liberté, ça n'est pas non plus, et là, ça nous met sur un thème qui est très cher aussi à André Chanson, c'est le thème de la raison. La liberté, ce n'est pas l'exploration hasardeuse de ce qu'André Chanson appelle les forces obscures de l'esprit. Autrement dit, c'est là la raison pour laquelle André Chanson a pris ses distances, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les surréalistes. Parce qu'il reprochait précisément aux surréalistes d'abuser en quelque sorte de la liberté.
Oui, pour lui, c'était une sorte de désordre.
C'était un désordre de l'esprit. Or, pour André Chanson, la liberté n'est pas dissociable justement de l'ordre de la raison. Et la troisième chose que, évidemment, et ça transparaît dans toutes les dernières œuvres en particulier, que la liberté n'est pas, pour reprendre encore ce thème-là, c'est une sorte de liberté formelle, c'est-à-dire simplement l'absence d'entrave, d'enfermement, d'obstacle. Quelqu'un qui est enfermé, même pendant 40 ans dans une prison, peut être au comble de la liberté. Marie Durand, enfermée pendant 40 ans, est une femme libre, totalement libre. Elle aurait pu dire trois mots simplement pour sortir de cette prison.
Je me réunis.
Je me réunis. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle est toujours restée libre de son choix. Mais ce choix-là, cette liberté-là, ça n'est pas le refus de l'autorité, c'est l'acceptation d'une loi, au contraire. On peut être libre en acceptant une loi. Et ça, c'est un message fondamental.
C'est une liberté qui est en accord total avec la conscience.
Tout à fait.
C'est une liberté vertueuse et difficile.
François-Pierre Nizeri, vous écrivez « Ce choix libre est celui d'une soumission, d'une obéissance absolue à une règle de vie ou une règle de pensée, un texte qui fait loi. La soumission de Marie Durand et des prisonnières aux Écritures est totale. Celle de Roux le bandit, comme nous le disions tout à l'heure, au commandement de ne pas tuer, ne l'est pas moins. La liberté la plus fondamentale conduit à la rigueur la plus exigeante. C'est antinomique, ça semble antinomique.
Ça semble antinomique, mais c'est, selon André Chanson en tout cas, et c'est ça finalement je crois qui m'a bouleversé dans cette œuvre, ce message profond, c'est que la liberté, c'est pas simplement le fait de faire tout et n'importe quoi, c'est également d'accepter librement de faire le choix d'une règle, d'un ordre, et de le faire éventuellement même au nom de la raison. Quand je fais mon choix personnel catholique, j'obéis à un ordre aussi, à une hiérarchie, à une structure, à une église. Mais je le fais librement. La liberté est la base même de la religion. Ça, c'est aussi le message essentiel. C'est un message catholique, protestant, tout. Mais c'est un message qui vaut pour tous les hommes du monde actuellement. Qu'on arrête de penser la liberté simplement comme, encore une fois, comme...
Comme la licence.
Comme la licence, voilà. Exactement.
Oui, vous parlez du digne héritage des premiers siècles chrétiens par rapport à cette liberté de conscience.
À moi, quand j'ai lu la Tour de Constance, j'étais plongé dans les premiers chrétiens, dans l'histoire des premiers chrétiens.
Donc les chrétiens réunis, catholiques et protestants.
Bien sûr.
Oui, autant où bien nous étions tous ensemble.
Mais bien sûr. C'est l'évidence même. Pour moi, Marie Durand est un exemple chrétien par excellence.
Et on peut,
qu'elle soit protestante ou catholique, peu importe.
On peut dire que les premiers chrétiens étaient souvent des martyrs.
Bien sûr.
Et elles sont des martyrs dans leur tour.
Voici quelques mots écrits en 1940 par André Chanson sur la liberté. Des mots qui sont suivis du portrait qu'il fait de son arrière-grand-père, le vieil Aldebert.
J'écris pour le jour de la liberté. J'écris pour conjurer les maléfices de la défaite. Si nous avons été déjà vaincus, si nous avons déjà subi l'invasion, pas une seule fois dans tous ces désastres de notre histoire, nous n'avons été détournés de nous-mêmes, comme nous le sommes aujourd'hui. Car ce n'est pas seulement le joug de l'étranger qui risque de précipiter notre déchéance, mais notre propre renoncement, et d'abord ce silence auquel nous sommes condamnés. Car c'est aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir parler à voix haute, aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir retrouver l'inflexible fierté qui sauve les vaincus de la honte. Mais rien ne peut être dit qui porte ombrage à nos vainqueurs, qu'ils soient allemands ou français. Les uns nous permettraient bien de nous accuser nous-mêmes, mais non pas de les accuser, et de mettre de juste poids dans notre balance. Quant aux autres, qu'avons-nous à faire de leurs mensonges? Pendant ce sombre hiver, pendant ce premier hiver où nous n'aurons plus été ni soldats ni citoyens, nous aurons pu du moins écouter au fond de nous-mêmes. Je hais ce silence que nous impose la servitude, mais c'est pourtant lui seul qui peut, aujourd'hui, donner asile à la vérité. Mes titres de propriété sur les hauts sommets des Cévennes me venaient du père de mon grand-père, un Aldebert qui était né en 1802, au moment où Napoléon allait devenir empereur. Finials m'expliquait que cet arrière-grand-père avait vu deux empires, trois rois et deux républiques. Il me semblait qu'il avait traversé toute l'histoire de France avant de mourir en 87, dans sa 85e année, 13 ans avant ma naissance. « Marche droit, » me dit Finials, « le vieil Aldebert te regarde. » Et le vieil Aldebert ne me quittait pas des yeux. Son portrait était accroché au mur de la grande salle du champ, à main gauche de la porte. Quand j'entrais dans cette pièce, il tournait vers moi un œil oblique, et quand j'étais juste devant lui, il me regardait encore. Tous les portraits de face ont cet étrange pouvoir, mais je croyais qu'il ne se manifestait que sur le portrait de mon grand-père. C'était un vieil homme au visage lourd, à peine creusé par deux rides. Ses yeux étaient clairs, d'un bleu tirant vers le gris, avec des pupilles noires. Son front solide avait l'air d'un de ces cailloux qui descendent le lit des torrents aux grandes crues de l'automne. Il ne ressemblait à personne de la famille, et l'on me disait pourtant que j'avais son regard, sans avoir ses yeux, et sa façon de serrer la bouche, sans avoir les mêmes lèvres que lui. « Dites, Finiels, vous l'avez connu ?»«
Si je l'ai connu, tout le monde le connaissait. C'était un homme comme on n'en verra jamais plus. »«
Qu'est-ce qu'il était ?»«
Un paysan, comme nous. Pendant toute sa vie, il a travaillé la terre. Mais dans ces derniers temps, il faisait des camionnages avec une charrette et un cheval. Il courait le canton du bas des vallées au fin fond de la montagne. Il passait partout, par la neige et le mauvais temps. » Le lundi, on le rencontrait à Pont-d'Hérault, où il habitait. Le mardi, on pouvait le voir à Aumessas. Et le mercredi, à l'Espirou. Il avait son verre et son assiette dans toutes les maisons du Haut-Pays. Les gens l'aimaient et lui demandaient ses avis comme s'il avait été notaire ou pasteur. C'était le juge de paix des pays perdus, le conseiller des fermes de la montagne.
« Il est mort en plein hiver, » me disait grand-mère. Mais, malgré la neige et le froid, on n'a jamais vu un enterrement comme le sien.
« Tout le pays était là, » répondait Finiels. « Des cent et des mille, la ville entière, les gens des vallées et des montagnes, ceux d'Avez, de Pont-l'Hérault, de Molière, d'Aulas, de Bréau et de Salagosse, ceux d'Aumessas, d'Arrigaz, d'Alzon, de Montdardier, des Blandas, de Rogue, d'autres encore, qui avaient passé l'école pour venir, ceux de l'Espirou, de Camprieux, de Dourbiès, de Trèves, des Lopiètes et des Lopis.
C'était comme un dénombrement de nos montagnes et de nos vallées, l'appel nominal de tous les lieux habités, de tous les coins perdus, où s'étaient groupés quelques feux autour d'une source.
Devant les micros de Canal Académie, aujourd'hui, nous écoutons François-Pierre Nizeri qui vient de consacrer à André Chanson tout un ouvrage intitulé « Le minéral et la fleur ». Avec nous également sur ce plateau, Frédéric Hébrard, la fille de l'académicien André Chanson que nous évoquons aujourd'hui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon père n'a pas été un protestant qui allait au temple, qui suivait la religion d'une façon normale. Il est allé beaucoup plus loin que ça. Et par exemple, son choix de ne pas me faire baptiser quand j'étais petite, en disant « elle choisira plus tard », c'était vraiment le choix de la liberté. Mais quel poids sur les épaules d'un enfant de devoir un jour choisir. Et l'enfant, moi je l'ai fait, mon baptême protestant, je l'ai fait il y a 5 ans. Mais en le faisant, j'ai pensé que c'était le plus beau cadeau que mes parents m'avaient fait, c'est-à-dire de remettre mon âme entre mes mains et de ne pas faire des choses par tradition, par habitude, pour faire plaisir, pour être conforme, non, que ça jaillisse comme une source du fond du rocher, du fond du minéral.
Frédéric Hébrard, écoutons maintenant ce que votre père, lorsqu'il était un tout jeune garçon, confia un jour à sa grand-mère.
Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire, murmurai-je à demi-voix, sans pouvoir aller plus avant.
Eh bien,
me dit-elle sans se retourner. Grand-mère, je ne peux plus croire comme Madame Vidal et comme Léontine Mouty. J'ai lu des livres qu'elles n'ont pas lus. Je sais des choses qu'elles ne savent pas.
J'avais cru que grand-mère allait se retourner en poussant un cri, comme si le feu du ciel venait de tomber sur elle.
Mais elle restait immobile, sans avoir l'air de m'entendre, le front toujours collé à la vitre. « Je suis désolé de te faire de la peine, mais je ne veux pas te mentir. »«
Avec toute ta science, » grommela-t-elle.
Je continuais à parler, je ne pouvais plus m'arrêter. Il me fallait aller au bout de mes confidences. « Grand-mère, je ne crois plus. » Il me semblait que je venais de la frapper entre les deux épaules avec un couteau. Pourquoi restait-elle immobile? Était-elle en train de prier, de demander un miracle à celui dont je m'étais détaché? Elle me tournait toujours le dos. Je ne pouvais pas voir son visage, mais par la fenêtre à côté du petit bureau de palissandre, j'entrevoyais le jardin avec son humus gorgé d'eau, sous les margelles des puits, derrière le mur sous lequel nichent les cloportes, les arbres du parc d'Assas se frondaient avec les montagnes. Au-dessus, le ciel était vide. « Tu ne crois plus, » dit soudain grand-mère d'une voix calme. « Qu'est-ce que ça peut bien faire ?» Elle s'était retournée. Jamais peut-être une aussi profonde sérénité n'avait illuminé son visage. Il m'apparaissait radieux dans une auréole de pénombre. « Qu'est-ce que ça peut bien faire ? » reprit-elle. « Ce que nous pensons n'a jamais beaucoup d'importance. Je suis tranquille. Il saura te retrouver. Il te retrouvera bien un jour. »
Poursuivons dans ces domaines d'interrogation métaphysique. André Chanson se confie dans « Il faut vivre vieux ».
Dieu est peut-être là où on ne le cherche pas. C'est peut-être une invention de l'homme. Et ça, ce n'est pas une idée d'agnostique. Si l'esprit humain n'avait pas été capable de concevoir tout ce qu'il est capable de concevoir, il n'aurait pas conçu Dieu. Cela dit, je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas. J'ai un peu tendance à penser qu'il n'existe pas sous la forme anthropomorphique. Mais tout de même, n'existant pas, il est là. Et je crois que ce choix du tombeau a été quelque chose d'assez extraordinaire. Si je n'avais pas été protestant, je n'aurais pas choisi cette place. Nous sommes dans le battement des lois de la nature et je m'y soumets. Je suis dans la sérénité. Je n'ai pas l'horreur de la mort. Pourquoi donner dans un anthropomorphisme dérisoire? Je ne peux pas penser au Père éternel ouvrant les bras et m'accueillant. Mais il y a tout de même dans l'ordre naturel quelque chose qui aurait un caractère bienveillant, qui serait une valeur de refuge, de prise en charge pour l'éternité. Historiquement, je reste protestant. Historiquement, je trouve que mes ancêtres ont eu raison. Historiquement, il était beau de mourir à la Saint-Barthélemy ou à la guerre des Camisards. Au temps de la Résistance, le maquis de l'Espérou, quand il allait au combat, reprenait les vieilles formules. Et comme c'était à peu près tous des protestants, ils mettaient le genou à terre et le pasteur leur donnait sa bénédiction. Je ne suis pas contre, même si ça doit désarçonner un certain nombre de gens. Partir avec la bénédiction donnée par un homme au nom d'un rêve de l'esprit de l'homme, c'est déjà bien. Ce n'est pas un chemin sans issue. L'issue est toute trouvée, elle nous attend tous. Une chose à laquelle je crois, c'est à la communion avec les autres hommes. Je voudrais vivre avec cette communion. Je l'ai frôlée parfois. Au temps de la Résistance, on était tout près les uns des autres. Mais cette union n'a pas duré. Elle n'a pas survécu aux événements. Je pense à un être qui m'est très proche, ma femme. J'aime autant croire quand le jour sera venu que l'identité sera éternelle. C'est une idée d'homme bien vivant. C'est une idée d'homme vivant qui se défend et qui a un pouvoir consolateur qui le porte. Je le répète, nous sommes là devant le problème majeur qui se pose à l'homme. Nous n'en sortirons pas. L'humanité pense à cela depuis des temps sans en sortir. La mort, l'éternité, les rapports avec ce qu'on appelle la divinité. Quelques-uns des plus beaux livres ont été écrits sur ces thèmes et ils n'ont rien résolu. À l'Académie, je fréquente des âmes qui sont parmi les plus religieuses de notre temps. J'y ai eu une grande joie. Le père Carré, dont la profession de foi n'est pas à faire, puisqu'il l'a faite pour la vie. Le père Carré m'a dit, lorsque j'ai publié Castanet, « Une chose m'a beaucoup frappé dans votre livre, c'est que les gens de chez vous, ces pauvres gens de la montagne, lorsqu'ils priaient Dieu, ne lui demandaient jamais rien. » Et j'ai pensé aux gens des galères. Sur les galères, c'était pareil. Quand ils se réveillaient, ils priaient Dieu le matin. « Mon Dieu, nous te remercions pour le soleil, pour le vent, et même pour le mal avec lequel tu nous éprouves. » Cette non, mon cité à la divinité, me paraît quelque chose d'infiniment consolant et sans doute d'infiniment protestant. La dignité de l'homme est peut-être là. La prière n'est pas une mendicité. Elle ne peut être qu'une explosion de gratitude. Le fait d'écrire, le fait de dire ce que l'on pense, c'est une prière au sens traditionnel du mot. Les plus belles prières ont été écrites par les plus grands écrivains. J'ai passé ma vie à côté d'une compagne à l'âme stoïque. Ce stoïcisme l'a sans doute entraînée à se croire agnostique, alors qu'elle possède toutes les vertus d'une âme religieuse. Peu de jours avant de se donner la mort, Henri de Monterland m'écrivait en me parlant d'elle. J'ai dit beaucoup de mal des femmes dans mes livres. Sans doute ai-je eu tort. Elles valent mieux que nous. Elles sont plus romaines. Romaines. De toute façon, quelle bonne compagne pour la vie et pour l'éternité.
Toujours dans ce domaine spirituel, la question du mal. Le mal, posez-vous comme question, page 61 de votre livre, le mal est-il hors du réel? Est-il un produit de la déraison, hors les frontières de l'intelligence, du rationnel, du terrestre? Où est-il? Où se cache-t-il? Qui est le mal? Qu'est-ce que le mal? Quelle réponse a apporté André Chanson dans ses livres?
Ça, c'est la question la plus difficile. C'est la question, je pense que c'est la question fondamentale qui a traversé l'esprit d'André Chanson jusqu'au bout, qui l'a habité complètement jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fondamentalement, pour André Chanson, la liberté est associée à la raison. La résistance est un acte de raison. Ce n'est pas un acte, encore une fois, qui vise n'importe quoi. C'est un acte rationnel.
Et le mal?
Le mal, la grande question qu'il se pose, c'est que le mal peut aussi être un allié de la raison. Et c'est absolument sidérant, frappant, quand on lit le dernier ouvrage de la trilogie des années 70, Les Taillons et la Terreur Blanche. Parce que là, vous avez le mal absolu organisé par des puissances publiques, qu'il ne désigne pas d'ailleurs. Il appelle ça les gros messieurs. Les gros messieurs qui se traînent par là dans les salons et qui organisent l'horreur, le mal. Alors évidemment, il ne faut pas remonter très loin dans l'histoire pour retrouver encore
ces gros messieurs.
Ces gros messieurs-là. Et même en pire, peut-être.
Mais il y en a plein, mondialement parlant, aujourd'hui, des gros messieurs et des puissances qui organisent le mal. Et
il
n'aurait pas aimé les voir. Vous parliez du mal et il a écrit dans les années 60, je crois, un très joli article. Il y avait encore des rez-de-chaussée dans le Figaro. Et c'était « On a perdu le péché originel ». Et il était très triste, justement, qu'il n'y ait plus la notion du bien et du mal, que tout d'un coup, ça se dilue dans une fausse liberté.
Oui, mais là aussi, le problème est de savoir si le bien et le mal sont des concepts qui sont, j'allais dire, distribuables. Un tel est-il le représentant du mal? Un tel est-il le représentant du bien? C'est quand même plus compliqué que ça.
Ah oui, bien sûr. Puis il y a des modes.
Il y a des modes actuellement, dans le monde actuel, des modes d'humiliation quand on jette et quand on laisse des gens dans un état de misère absolument totale, quand on nie leur existence même, quand on nie leur existence spirituelle. Cette humiliation produit le mal. Et il y a encore autre chose qui produit le mal. Le mal peut être aussi l'allié de la culture, de l'éducation. Le mal, en ce sens, est aussi peut-être aussi un allié de la raison parce qu'il peut être le produit d'une éducation, une très bonne éducation. Il y a des passages absolument terrifiants sur ce plan-là du livre de George Steiner sur l'éducation, où il dit précisément que l'éducation, même au plus haut niveau, peut produire des hommes qui portent en eux également le mal absolu. Et pourtant, ils ont été éduqués, et pourtant, ils ont reçu la culture, et pourtant, éventuellement, ils expriment la culture. Regardez pendant la guerre, les hommes qui gardaient les prisonniers dans les camps étaient des esthètes qui adoraient la musique, qui utilisaient des prisonniers pour faire des concerts, pour jouer devant eux. Et d'ailleurs, ça devenait même un petit commerce dans certains camps. Et cette question de l'alliance entre la culture
et
le mal est une question fondamentale qui a, à mon avis, totalement également terrorisé André Chanson. Et qui me terrorise aussi, qui, je suppose, terrorise tout le monde, dans le monde dans lequel on vit.
Le dessèchement de l'âme, de la conscience, du
cœur. Le dessèchement de l'âme et l'utilisation des formes les plus abouties de la culture et de l'éducation à des fins animales. C'est étrange.
C'est paradoxal.
C'est totalement paradoxal, mais c'est vraiment étrange. Vous avez des terroristes, il n'y a pas si longtemps, qui étaient des gens très éduqués. Ça pose question quand même.
C'est ce passage qui pose question. De la culture au mal absolu.
Le passage de la culture au mal. Alors qu'on peut imaginer, on peut penser que l'éducation, la début de l'éducation, c'est d'abord, justement, de faire en sorte que les gens qui reçoivent une éducation reçoivent en même temps une certaine idée du bien. Eh bien, c'est pas toujours le cas. La raison, le raisonnement intellectuel le plus élaboré peut aboutir au mal le plus élaboré lui-même.
Je crois tristement que de nos jours, la culture est bien amoindrie dans son action sur le peuple, si je puis dire. Le nombre de gens totalement incultes, c'est absolument terrifiant. Ça a fait des progrès en quelques années. Il suffit de regarder certaines émissions, des émissions de jeux où on pose des questions fondamentales, élémentaires, et les gens ne savent rien. Mais ça, mon père n'a pas tellement connu cette époque. Il y avait encore certaines traditions, je ne dirais pas de culture, mais d'instruction. Tandis que maintenant, il n'y a plus rien.
Le drame actuel, que votre père n'a peut-être pas connu à l'époque, mais le drame actuel, c'est que précisément, on se rend compte aujourd'hui que l'éducation ne suffit plus. Certaine forme d'éducation ne suffit plus, que la culture en elle-même ne suffit plus. Dans mon métier à la Commission européenne, finalement, je suis en plein dedans, puisque j'essaye de faire en sorte que dans les instruments de développement qui visent les populations les plus pauvres dans les pays les plus pauvres du monde, on mette de la culture. Mais de la culture, non pas simplement comme la culture de l'esthète, celle qui aboutit à des discussions, à des débats entre les élites, mais une culture qui permette à chaque humain, aussi humble soit-il, de retrouver une identité.
Alors, si vous me permettez, on va retourner dans les Cévennes, voilà. Parce que du temps de mon père, particulièrement dans son enfance et sa jeunesse, mais moi j'en ai connu, les bergers montaient, gardaient leurs troupeaux à la montagne, la Bible dans la besace, et ils s'arrêtaient, ils lisaient la Bible aux brebis. C'était extraordinaire. Et ça, c'est un cadeau que la Bible et le protestantisme ont fait au peuple des Cévennes. Et il y a un passage que je voudrais trouver dans La Reconquête qui est très émouvant.
Et puisque nous sommes toujours dans les Cévennes, on y reste encore un peu au contact d'André Chanson. Et vous écrivez, François-Pierre Nizeri, André Chanson nous parle de l'expérience de la cruauté, celle des enfants de la campagne, celle des pays de chasse. Ce premier contact avec la chose, cette chose enfouie au fond de l'âme et que Chanson n'oubliera jamais et qui sans doute déterminera sa méfiance instinctive pour les abîmes intérieurs et les forces obscures. Déjà tout petit, il avait détecté cette chose, ce mécanisme qui peut se mettre en marche même dans le comportement des enfants.
Bien sûr, et même au contact direct de la nature. Alors les Cévennes, c'est ça aussi. C'est la nature à l'état brut. Et Chanson perçoit son rapport avec les Cévennes comme un contact direct avec la nature et donc avec sa part de cruauté également.
Face à face avec la bête blanche, écrivez-vous.
Face à face avec la bête blanche, absolument. Mais ce contact direct avec la nature, André Chanson, lorsqu'il nous parle des Cévennes, il nous parle également, ça va au-delà de la nature, ça va au-delà du contact brutal avec la nature brute. C'est également une nature qui contient en elle-même une lutte, un combat.
On en arrive au dialogue des lieux.
Le dialogue des lieux.
Qu'est-ce que c'est que le dialogue des lieux ?
Le dialogue des lieux, c'est par exemple quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, le dialogue entre les pays du granit et les pays du calcaire. C'est pas pour rien qu'il cite précisément ces deux matériaux minéraux pour exprimer la lutte profonde de deux états d'esprit distincts dans ce pays des Cévennes. Le granit, c'est le minéral protestant. Le calcaire, c'est un peu
c'est
plus
vous,
friable.
C'est vous, François.
C'est nous, et c'est le catholicisme. Là, je suis évidemment pas tout à fait d'accord avec André Chanson.
On s'en doute.
Parce que ma tête de breton est une tête dure, de granit aussi. Et c'est là où la rencontre est absolument extraordinaire. Parce que la preuve est faite que ce minéral est un minéral partageable. Entre les Cévennes et la Bretagne, il y a, comme on disait tout à l'heure, une proximité minérale qui est inexplicable et qui fait qu'un protestant et un catholique peuvent se sentir complètement voisins, cousins, tout ce que vous voulez, mais en tout cas très proches.
Ce qui est quand même très curieux, c'est que à quelques centaines de mètres, une ferme est sur du granit, ils sont protestants, et puis plus loin, une ferme est sur du calcaire, ils sont catholiques. Je trouve ça incompréhensible, parce que quel choix, comme c'est étrange. On ne choisit pas sa religion en ramassant des cailloux.
Oui. On ne choisit pas sa religion en ramassant des cailloux, quoique ça m'est arrivé de ramasser des cailloux sur la plage là-bas. Et parfois, j'ai ramassé un jour, non pas un caillou, mais un morceau de bois sur une plage bretonne. Ce morceau de bois, je l'ai mis dans ma maison là-bas, je l'ai mis dans une petite encoche. C'est devenu la Vierge, parce que par la nature, ce morceau de bois avait pris la forme de la Vierge.
Oui, on ne ramasse pas beaucoup de vierges de bois sur...
Ça, c'est la protestante qui parle.
Sur les rivages des rivières des Cévennes. Mais il y a quand même un mythe catholique, si vous me permettez.
Oula.
C'est qu'on dit toujours que les protestants n'aiment pas la Vierge, qu'on n'aime pas Marie. Moi, je n'ai pas senti ça du tout dans ma famille protestante. Je connais beaucoup de filles de pasteurs qui s'appellent Marie. Bon, on n'a pas d'intercesseur, on n'a pas de culte de la Vierge ou des saints, mais le respect est là, et on dit quand même « est né de la Vierge Marie ».
Bien sûr.
C'était pas mal, hein ?
Mon allusion n'était pas une allusion perfide. Hein.
Et puisque nous sommes dans ces Cévennes magnifiques, on y reste encore ensemble, tous les trois, et avec nos auditeurs quelques instants, pour parler de l'arbre de vie d'André Chanson, que vous citez dans votre ouvrage « L'arbre de vie d'André Chanson à deux branches », écrivez-vous. L'une monte vers l'égoual et dialogue avec le grand tout, et l'autre descend de la montagne, se mêle au tumulte du monde et dialogue avec l'homme. Donc beaucoup d'aller-retour avec la nature, avec les éléments, jusqu'à cette comparaison.
C'est l'alliance. C'est la grande alliance. C'est pour ça que, dans l'œuvre d'André Chanson, l'égoual est l'épicentre. L'égoual, c'est à la fois la rencontre de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Ouais.
La Provence n'est pas loin. D'autres pays plus proches de l'Atlantique ne sont pas loin non plus. Tout ça se rencontre dans des tourbillons, dans des vents contraires. Mais l'égoual, André Chanson a toujours eu besoin dans sa jeunesse de monter vers l'égoual, ouais, mais également d'y redescendre et de redescendre dans la vallée, là où il y a les hommes. Et l'autre dialogue des lieux, il y a le dialogue effectivement entre le sommet de l'égoual et le bas de la vallée, l'homme. Mais il y a aussi le dialogue des lieux entre les lieux isolés, la campagne et la ville. La ville, territoire de transit parfois, de migration. Et là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'œuvre d'André Chanson, c'est la position de la ville d'Alès.
Pourquoi ?
Par rapport, par exemple, au Vigan. Au Vigan, qui est la ville qui est au pied de l'égoual, qui est en quelque sorte presque, je ne veux pas utiliser le mot à mauvais escient, mais c'est presque le lieu sacré. Parce que le Vigan, c'est là où était sa grand-mère,
voilà.
Sarah Adebert. Sarah Adebert, cette grand-mère qui lui dit un jour « Tu ne crois plus ? Oh, mais quelle importance ! Il saura bien te retrouver. » Ça, c'est la phrase fondamentale, à mon avis, sur le plan de la prière. On parlera de ça par la suite, mais c'est la phrase fondamentale qui fonde, en quelque sorte, l'œuvre de Chanson sur ce terrain-là, l'alliance. Et donc, le Vigan est également un point de convergence, de ce point de vue-là. Et puis, c'est là où il y a les hommes de la terre. C'est de là, de Saint-André, qui s'appelle le Vigan dans les hommes de la route. C'est de là que partent les hommes qui vont construire cette route vers le sommet. à partir de leur labeur quotidien, à partir de leur statut simplement d'homme. Y compris d'ailleurs, en l'occurrence, les femmes qui sont là derrière. Anna Combe, par exemple, qui est un personnage central.
Voici donc la description de cette Anna qui se sentait unie à Combe pour toute son existence.
Dans les grandes pièces de la rue Haute, sur lesquelles le soleil tournait au long du jour, Anna se sentait heureuse avec un peu d'inquiétude. Mais cette inquiétude était la promesse de son bonheur lui-même déjà. C'était toujours ce désir de se sentir non pas plus riche, mais assurée du lendemain. Elle sacrifiait tout le plaisir de la vie et tout ce que pouvait lui apporter de joie un jour après l'autre à cette passion. Elle vivait durement, et Combe avec elle. Un maigre ordinaire, pas un sou pour les plaisirs, toujours les mêmes vêtements pour la semaine, renouvelés presque sans dépenses, et un seul costume pour les dimanches, qui dura presque toute la vie. Quand on commença les travaux de la route et qu'ils vinrent s'établir à Saint-André, elle avait 25 ans, et Combe 28. Sur sa robe noire, mince de taille, et fusante en plis autour des hanches, sur ses tabliers bleu sombre, d'étoffes luisantes et raides, elle croisait encore quelquefois un châle court de teintes violentes, mais la coquetterie et le désir de plaire avaient déjà abandonné son cœur. Elle se sentait unie à Combe pour toute l'existence, sans aventure possible ni tumulte, et le seul souci du ménage l'occupait. Forte de corps et de sens, elle avait devant Combe un goût du plaisir. Mais vite oublieuse, jamais inquiète, elle était libérée de la chair par la violence même de ses brusques ardeurs, souverainement tranquille, comme un mâle robuste. Unie dans la montagne, habituée à la solitude, elle et Combe pensaient ne pouvoir jamais se détacher, ni de corps, ni d'esprit, et surtout se mêler l'un à l'autre par une même préoccupation d'ordonner leur vie, de gagner leur bonheur sur un sort avare. Dès qu'elle fut complètement installée à Saint-André, elle chercha du travail pour elle, à petites relations, à petites démarches, en ramenant toutes choses à son désir, en répétant à tout le monde qu'ils en avaient besoin, comme si la nécessité et le désir de la surmonter leur avaient donné un droit réel. Mais quand elle fut entrée à la filature, elle ne fit qu'ajouter son salaire aux économies qu'elle faisait déjà sur celui de Combe, sans rien changer à ses dépenses. Seules ses réserves s'accrurent. Deux fois par an, avec régularité, aux grandes foires, les armoires s'emplirent de linge et de vaisselle, et dans cette abondance sans éclat, la vie parut devoir devenir plus belle pour le ménage, pour Anna surtout, parce que Combe, sans rien imaginer ou prévoir, trouvait en lui-même sa joie et son allégresse.
Donc le Vigan, c'est les hommes, mais les hommes attachés à la terre. À l'Est, c'est l'expérience d'André Chanson dans sa jeunesse, et l'expérience de frustration.
Oui, un moment très malheureux pour ses parents et pour cette famille.
Une petite ville où il a ressenti...
Que ses parents n'étaient pas heureux, que son
parents
père ne réussissait pas.
N'étaient pas à leur juste place. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à regarder vers Paris. Mais quand il est allé à Paris, autre dialogue des lieux, la Cévenne et Paris, il est allé à Paris, mais il a continué de se retourner tous les jours vers les Cévennes. Donc le dialogue des lieux n'est jamais une rupture, c'est toujours un échange, une alliance.
Écoutons André Chanson nous parler des Cévennes.
J'habitais alors le Vigan, et c'est par le Vigan que j'abordais toujours le massif. Plus tard, séjournant à Valrogue, je me suis rapproché de lui. Il n'y avait plus vers la haute crête qu'une seule levée de schiste croulant et de pâturage, une rampe de 1000 mètres de haut d'une seule lancée. L'ascension devenait plus rapide, plus courte, plus poignante peut-être. Mais je garde toujours cependant un goût plus grand pour ces courses faites par le Vigan, plus longues, plus exténuantes, aussi raides d'abord, égalisées ensuite par les longues crêtes herbeuses du Montals ou de la Luzette. C'est par cet itinéraire que, rêvant, je m'approche toujours de la montagne. C'est par cet itinéraire aussi que j'aime à conduire un ami vers la haute crête. Par une de ces transpositions qui, pour un romancier, donne au monde une présence plus grande et une réalité confirmée, j'ai fait du Vigan le Saint-André des hommes de la route. Mais ce n'est point que je sois infidèle à cette petite ville. J'éprouve au contraire, pour parler d'elle, cette pudeur que l'on ne donne qu'aux choses trop aimées. Et comment pourrais-je l'oublier, tournant sur nous-mêmes, flânant, nageant, courant tous les gouffres qui coupent les rapides de l'art, plongeant du haut des murs qui soutiennent ces prairies, nous y avons passé toute notre enfance à penser sans cesse à la montagne. En été, nous faisions presque chaque semaine une course d'un jour, parfois deux, dans le haut massif. Mais c'était au changement de saison, en automne surtout, que ces courses devenaient pour nous plus passionnantes, à cause des grands bouleversements du ciel et des changements qu'à chaque heure le vent, la pluie ou la neige apportaient sur la montagne. La petite ville échappait encore, au fond de son trou, aux attaques des vents du nord. Mais de la place du quai, des bords de l'Ar, où nous nous allongions après le bain en croquant des pommes restées vertes que nous mûrissions en les frappant au plat d'un caillou, du sommet du Pont Vieux, d'où l'on voit le pic de la Chèvre, et là la brèche du Migné, nous surveillons toujours la montagne. Sur la vallée, par le Lingoise, par le Montal ou le Cap de Coste, nous venions voir monter les nuages et s'embrouiller le ciel et se renouveler l'horizon. Tous ces mouvements, au-dessus du calme de la ville, trahissaient les tempêtes des hauteurs. Alors, grisés d'avoir vu ces charges de la nuée et ces déblaiements du ciel, nous allions jusqu'à la poste et nous demandions l'observatoire. Le garde là-haut devenait pour nous comme un oracle. Dans la cabine téléphonique, à deux ou trois, coude à coude, nous attendions, avec une sorte d'angoisse, que les goales répondent.
Il disait, je vais le citer en provençal, « Ciel rayol per l'oussant, française per la raison, provençal per la poésie ». Je suis rayol, c'est-à-dire les royaux, comme on nous appelait les Cévenols. Je suis rayol par le sang, français par la raison et provençal par la poésie. Et c'est cette alliance, cette espèce de triangle des Cévennes, ouvert sur le monde avec l'Aigoual et sa ligne de partage des eaux dont vous parliez, qui a fait qu'il se trouvait bien et il était gémeaux. Moi aussi, la je gémélité. Suis gémeaux. Et la gémélité est quelque chose qui vous accompagne toujours. Et c'est étonnant, cette espèce de pic qui était l'Aigoual et cette ronde de bonheur français, provençaux, cévenol tout autour.
Le dialogue des lieux, l'alliance, nous évoquions ces thèmes il y a un instant. Il y en a un autre aussi, capital dans l'œuvre et dans la vie d'André Chanson, c'est celui de la justice. Qu'écrivez-vous au sujet de la justice dans ce livre?
Ah, la justice, ça c'est un élément très particulier et très important. C'est le thème du dernier livre de la trilogie des premiers romans d'André Chanson, Le crime des justes. Mmh. Et c'est quelque chose qui est, pour le coup, directement relié à la terre, au lieu, aux Cévennes. La justice d'André Chanson, qui est la justice protestante, bien dire les choses par leur nom, cette justice protestante est une justice profondément ancrée dans la terre. Elle ne résulte pas d'une autorité suprême, fût-elle divine. Elle peut résulter d'une loi qui s'impose à tous, mais qui est mise en œuvre, traduite par des hommes de la terre, enracinés dans une terre. Et à travers ce concept de justice, c'est ni plus ni moins que le concept de la démocratie, qui est là. Et effectivement, le protestantisme est à l'origine, dans une certaine mesure, de la démocratie, du concept de la démocratie et du concept de justice dans la démocratie. Ce qui ne veut pas dire que ce concept de justice soit parfait.
Non, puisque vous parlez de l'aveu d'impuissance d'André Chanson, de tous les hommes humains face à la logique du pouvoir le plus démocratique. C'est le livre de l'aveu d'impuissance face à ce pouvoir qui s'approche le plus d'une démocratie idéale, mais qui ne fait que s'en approcher.
C'est à la fois un aveu d'impuissance et en même temps, s'agissant d'une justice qui est profondément humaine, il y a toujours quelque part un espoir que ça aboutisse à une situation
améliorée.
De justice améliorée. Mais la démocratie, la justice terrienne, selon ce concept-là, elle est applicable et appliquée par des hommes, lesquels hommes sont menés non seulement par des instincts, mais même éventuellement par la raison qui peut les amener au mal.
C'est donc toujours en devenir.
La raison d'État, ce qu'on appelle la raison d'État, est une raison profondément rationnelle. C'est peut-être ce qui s'oppose le plus à l'irrationnel, mais elle peut aboutir au mal absolu. On revient sur la question précédente qui traverse toute l'œuvre de Chanson et à laquelle il n'a pas donné de réponse. Personne ne peut donner
mais
de réponse.
Mais on ne peut pas donner de réponse. Il faudrait être Dieu.
La réponse, elle est exactement. Elle est au-dessus ou en dessous, le très bas peut-être, selon Christian Bobin, ou le très haut.
Et ma liberté de conscience, alors, comment l'exercer par rapport à ces écueils?
Votre liberté de conscience, elle est justement le choix que vous faites,
voilà.
La capacité que vous faites d'accepter cette loi et de l'appliquer. Et si à ce moment-là, on citait saint Paul, on dirait c'est l'autorité qui doit faire appliquer cette loi. Mais il y a des moments précisément où il faut résister, même à l'autorité, dans la mesure où cette autorité, pour des raisons qu'on vient d'exposer, peut éventuellement utiliser cette raison d'État, cette raison tout court, pour des considérations et pour des objectifs qui sont totalement, rigoureusement immoraux et qui sont effectivement le mal absolu. Ça peut arriver. On est, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est dans ce cycle-là, dans ce cycle humain. Mais ce cycle humain, aussi, la liberté de conscience permet précisément de combattre, au sens de combat de l'esprit, cette tendance profonde qui est en chacun de nous, mais sans jamais la moindre garantie de résultat. Mais c'est toujours la petite flamme qui reste là, au fond de chacun de nous. La petite flamme qu'on trouve au fond des catacombes, au fond des trous, au fond de l'auberge de l'abîme, de Brahmabio. Et voilà.
Mais elle s'inscrit comment, cette liberté de conscience? Au niveau de l'individu ou au niveau du bien commun?
Elle s'inscrit, de mon point de vue, certainement pas au niveau de l'individu, mais au niveau de la personne. Je vous avoue que je déteste ce mot d'individu. Et je déteste également ce qui va avec, c'est-à-dire l'individualisme.
J'ai bien fait de le prononcer, alors.
Comment
on a votre réaction?
La personne. La personne, tout simplement.
Mais
le bien commun, et le bien commun est le bien commun de l'ensemble des personnes qui constituent la société. Et là, on aboutit à quelque chose qui est très important également dans l'œuvre de Chanson que je voudrais souligner, c'est la valeur de l'acte collectif. Cette valeur de l'acte collectif, on la trouve à la fois dans le chanson homme politique, homme de guerre. Vendredi, par exemple. Vendredi est un acte collectif. Un acte littéraire collectif, ce qui tend à prouver que les écrivains ne sont pas seulement des individus égoïstes enfermés dans leur...
Et c'était vrai. Ils ont été extraordinaires. Ils n'ont jamais profité de la situation de victoire du Front populaire que pour essayer de servir. Mais c'était étonnant. Là, j'étais encore plus petite, mais j'ai un souvenir lumineux du désintéressement de ces hommes et de ces femmes. Et au moment de la victoire de Mitterrand en 81, mes parents ont cru que ça repartait comme en 36. Et ils ont déchanté tout de suite, parce que c'était pas du tout le même son de cloche. C'était tout à fait différent. Et ça a été une très grande douleur dans sa vie. Ça a été une très grande douleur et je me souviens, quelques mois avant sa mort, il m'a dit « Est-ce que nous nous sommes battus pour rien ?» C'est terrible. Et je ne pense pas. Mais en vous écoutant parler de la conscience et de la personne, tout d'un coup, on a l'impression de ce que ça représente de luxe que quelqu'un puisse avoir une vraie conscience, qu'il puisse avoir envie du bien commun. C'est extraordinaire.
C'est un luxe indispensable.
Indispensable.
Il n'y a pas beaucoup de luxe indispensable, mais celui-là l'est.
Dieu, puisqu'il est question de lui, hein, Dieu ne le dispense pas à tout le monde, cette possibilité. C'est presque aussi injuste que la beauté et la laideur chez les enfants.
Bien sûr. Je reviens simplement sur un élément là-dessus concernant le collectif. Le collectif, je vous ai dit, c'est quelque chose de fondamental dans la pensée d'André Chanson, quelque chose qui d'ailleurs m'a tellement imprégné et tellement bouleversé dans la lecture de l'œuvre d'André Chanson que c'est essentiellement la raison pour laquelle je collabore à cette revue littéraire. Les revues littéraires sont un instrument essentiel, je voudrais le dire haut et fort, un instrument essentiel du collectif littéraire, du collectif des écrivains. Il faut que nos écrivains, tous nos écrivains d'aujourd'hui, cessent de se prendre pour le centre du monde, cessent de penser que leur écriture est la seule possible, cessent de penser uniquement au travers de leur ego. C'est essentiel. Il faut qu'on en arrive là. Et l'écriture est un moyen pour ça. Parce que l'écriture, selon André Chanson, est une prière. C'est une prière. Mais c'est une prière qui est également une lutte, un combat. Un combat de l'esprit, mais un combat quand même. Et il y a un élément qui est très important dans le dialogue des lieux. Le dialogue des lieux, c'est toujours un contraste, l'opposition d'un être à un autre, d'un lieu à un autre. Et il y a un concept qui est derrière l'œuvre d'André Chanson que Richard Cantinelli lui avait mis devant les yeux. C'est le polémos d'Héraclite. Et je cite toujours le polémos d'Héraclite parce que pour moi, c'est un mouvement fondamental de l'existence humaine.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire l'opposition des contraires.
La gémellité encore.
Mais à partir de l'opposition des contraires, la richesse du couple André Chanson, Frédéric Hébrard, c'est son opposition. La richesse.
Je ne parlerai pas d'opposition.
Le minéral et la fleur.
Je parlerai de différence.
De la différence, d'accord.
Opposition, ça fait vilaine fille.
Non. La différence, d'accord. Mais c'est pareil pour le couple Frédéric Hébrard, Louis Vel, la protestante et le catholique.
Dieu merci, je trouve ça formidable.
Et ça donne un résultat extraordinaire. Et c'est sur ces bases comme ça qu'on devrait construire l'Europe, en étant conscient qu'on est différent, pas en cherchant une espèce d'unité illusoire. En étant conscient de nos différences et que cette différence, elle est notre richesse, même si elle passe par le combat parfois. Parce que le combat, c'est deux. Un et un. Quand on veut faire un plus un égale un, c'est l'un. Et alors là, on est dans le domaine divin et ça ne nous appartient pas.
Il y a une très très belle phrase qui dit « Sans Judas, on ne peut pas jouer la pièce ». Et c'est vrai que
exactement.
Judas est indispensable. Et puis Abraham n'est jamais plus proche de lui-même que quand il va vers l'autre. Et ce goût de la différence qu'ont beaucoup les Gémeaux, puisque André Chanson Gémeaux, Frédéric Hébrard Gémeaux, Louis Vel Gémeaux, quand on était tous les trois, on était toujours six. Et c'est formidable de pouvoir partager la différence. Moi, je serais désolée si tout le monde se ressemblait, si tout le
Absolument.
Monde avait les mêmes idées.
Absolument.
Alors revenons sur nos couples de Gémeaux. Et parlons de ce couple que vous qualifiez d'antinomique par excellence, François-Pierre Niseri. Le couple Frédéric Hébrard-Louis Veil, un couple protestant-catholique qui concentre son histoire dans toutes les contradictions de l'histoire de France, écrivez-vous, page 198 de votre ouvrage. Louis le catholique intègre la mémoire camisarde dans sa conscience papiste et Frédéric, la protestante, reçoit, elle, l'héritage de la religion dominante dans son âme résistante de réformée. Un héritage qu'elle reçoit si bien qu'elle aussi le transmet à ses enfants en acceptant leur baptême romain.
Oui, alors je voudrais quand même préciser que quand nous nous sommes rencontrés, Louis et moi, au conservatoire, il y a fort longtemps, je peux pas dire que j'étais vraiment protestante. J'étais pas baptisée, je n'allais plus au temple depuis la mort de ma grand-mère, la fameuse Mémé, et je rencontre un garçon bon qui avait été élevé chez les frères des écoles chrétiennes, mais qui n'était pas un pratiquant frénétique. Et ça m'a intéressée de voir justement la différence, de parler avec lui de la façon dont il avait été élevé, de lui parler de Mémé qui m'amenait au temple, de lui parler aussi de mes parents qui m'emmenaient manifester pendant le Front populaire et que je pouvais à peine marcher. Tout ça a été divertissant, intéressant. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que mes parents avaient trouvé Louis si intelligent la première fois qu'ils l'ont vu, qu'ils s'étaient imaginé qu'il était juif. Et Louis était très étonné et il me dit « mais ils vont être déçus quand ils sauront que je suis un élève des frères ». Ils n'ont pas été franchement déçus, mais enfin quand même, ils pensaient que Louis avait une intelligence tout droit sortie de la Bible. La vie, c'était quand même l'amour qui nous réunissait et qui nous réunit toujours, Dieu merci. Puis ce partage des mémoires différentes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la vision de son catholicisme profond, bien que très intermittent au point de vue de l'assiduité, m'a donné envie d'être protestante, non pas parce que je pensais que le catholicisme n'était pas bien, mais parce que je me suis dit, il est comme ça, et moi, je suis autrement. Et mon Dieu, ça s'est bien passé, et le souvenir de mon baptême, je regrette que mes parents n'y aient pas assisté, mais au fond, je suis sûre qu'ils étaient là.
Au résultat, Frédéric, vous ne vous êtes pas écarté de votre foi protestante, et Louis ne s'est pas écarté de sa foi catholique.
Absolument, absolument, mais nous partageons l'essentiel, nous partageons Jésus. On dit souvent qu'on fait un ménage à trois, c'est merveilleux. Mais ce que je partage avec Louis est exceptionnel puisque c'est mon mari, je suis sa femme. Mais j'ai des amis juifs pratiquants, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis rien, j'ai des amis orthodoxes. Et partout, j'ai la chance de voir le cœur sacré de leur foi. Tous les matins de Pâques, nous avons perdu une amie russe orthodoxe que nous aimions tendrement. Et quand nous nous réveillons, on se précipite pour se dire « Christos voskrese, voistinu voskrese ». Ce qui veut dire « Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité ».
François-Pierre Nisry, vous posez la question dans votre livre, André Chanson eût-il été lui-même sans les lettres? Alors qui est les lettres?
Lucie Mazurik est devenue les lettres Chanson, et en devenant les lettres Chanson, André Chanson est devenu André Chanson.
C'est-à-dire?
Ils sont indissociables l'un de l'autre. Les lettres a apporté, je crois, quelque chose qui est... C'est pas de l'ordre du religieux, mais c'est de l'ordre du rite.
Ah oui, très bien.
L'ailette a apporté quelque chose qui vient d'Anduze, ce travail d'abeille. Et c'est quelque chose qui l'a accompagnée toute sa vie. Et c'est un peu pour ça qu'elle est devenue chartiste. Et c'est aussi probablement pour ça qu'André Chanson est devenu aussi chartiste, même s'ils se sont rencontrés à l'école des Chartes. Mais il y avait forcément quelque chose entre eux de ce côté-là.
Nourri par les mêmes ferveurs protestantes, le même amour de la liberté, je vous lis, François-Pierre Nisry, dans le culte de la résistance dont nous avons parlé tout au long de cette émission, de la mémoire écrite, et donc un amour issu des mêmes montagnes, des mêmes fiertés solitaires, c'est un très beau passage, jumeau d'âge et d'éducation chartiste, comme vous l'indiquiez, amoureux des mêmes mots et du même combat politique, cet homme et cette femme sont marqués dès l'enfance par un inéluctable destin commun, et vous citez Martin Luther, ils ne peuvent autrement.
Absolument, ça c'est très très bien vu, la prédestination de l'un à l'autre et de l'autre à l'un est extraordinaire.
François-Pierre Nisry. Nisry signifie désert, et nous revenons encore tout à fait dans notre sujet. Désert avec un S, m'avez-vous indiqué. C'est du breton, Nisry?
C'est du breton et c'est effectivement un pluriel, et ça veut dire désert. Et je suis très fier de porter ce nom.
Vous savez que ça a une connotation toute particulière dans l'âme sévenole, le désert.
Ça a une connotation particulière dans l'âme sévenole, ça je suis bien conscient de ça, et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle j'ai été effectivement fasciné par cette aventure dans l'œuvre d'André Chanson. Parce que le désert est présent dans l'âme sévenole, et parce que le désert est présent en permanence dans l'œuvre d'André Chanson. C'est pas un espace physique. Ça peut être un espace physique, mais c'est surtout un espace intérieur. Et moi, mon nom, je le porte en moi. C'est un espace intérieur qui ne me quitte jamais et qui me vient non seulement de mon nom, que m'a donné mon père, grand résistant, André Nizeri, mais c'est un espace intérieur que m'a donné aussi ma mère, qui a vécu 40 ans d'érémitisme à la Sainte-Baume.
C'est extraordinaire.
Alors, ce mot désert, Frédéric Hébrard, pour le protestantisme, signifie quoi ?
Eh bien, c'est un parallèle entre le désert... Je cherche le premier vers de Racine que j'ai dit sur la scène de la Comédie française quand j'étais élève au conservatoire. D'un joug cruel, il sauva nos aïeux, les nourrit au désert d'un pain délicieux. J'étais dans les chœurs d'Athalie. Et alors, il y a ce désert biblique, et au moment des persécutions et des dragonnades, on se réunissait dans des assemblées au désert, avec un D majuscule, pour prier ensemble, lire la Bible, la commenter. On se mariait au désert, on baptisait les enfants au désert. Ça nous est resté quelque chose de sacré. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de célébrer ce désert dans mon dernier livre, qui n'est pas du tout un roman historique, enfin qui ne l'est pas encore.
Les Châtaigniers du désert,
voilà,
roman paru chez Plomb.
Avec le D majuscule. C'est le souvenir vivant aujourd'hui de cette période de massacre, de brûlement des Cévennes, d'enfants envoyés au couvent, de femmes enfermées à la tour de Constance et d'hommes envoyés sur la Superbe. C'est-à-dire que j'ai ramassé tout ce que mon père a déposé entre mes mains. Et je n'étais pas du tout consciente de le faire au moment où je l'ai fait. Mais c'est ça le miracle de la transmission de la mémoire et de l'héritage. Et dans ce merveilleux discours au désert en 1935 qu'on a appelé « Résister », mon père parle de ce qu'il appelle notre héritage de pauvreté. Et quelle richesse ! C'est tout ce qu'on peut emporter les mains vides, tout ce qu'on peut transmettre, même dans la plus grande misère. Et puis c'est le respect de ceux qui nous ont précédés. Et on peut avoir un respect immense et un amour immense pour ses aïeux camisards et être soi-même protestante et avoir beaucoup d'amour et d'amitié pour les catholiques.
Si je peux rajouter un petit mot sur le désert encore, parce que c'est quelque chose que je porte très profondément. Le désert, ce qui m'a frappé aussi dans l'histoire protestante, dans les Cévennes, le désert, c'est les lieux dans les Cévennes. Mais la notion de désert, c'est aussi, et pour les protestants tout particulièrement, l'exil. Le chemin vers l'exil, où là, le désert est partout, parce qu'on est loin, on est exilé, on est coupé de ses racines. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les Huguenots qui, à l'époque, sont partis. Et je me permets de penser spécialement à l'un d'entre eux, qui s'appelle Gédéon de Catalogne.
Oui, de qui Catalogne.
Qui était un huguenot du Béarn. Et j'ai dédié ce livre à sa descendante, ma femme, Anne de Catalogne. Je voulais prononcer ce nom, parce que pour moi, c'est aussi un symbole du désert, un symbole de l'exil, avec une histoire complètement différente, parce qu'on n'est plus dans les Cévennes, on n'est plus dans des caches, on n'est plus dans des grottes.
Mais on traverse un désert.
Ailleurs. Oui. Et puis de cet ailleurs, eh ben on revient.
Très joliment, page 96 de votre livre « Le minéral et la fleur », François-Pierre Nizeri, vous écrivez « Toute traversée du désert est rythmée par le chant du poète ». Et nous évoquons ensemble tous les trois André Chanson aujourd'hui. L'œuvre de vie de Chanson est un chant d'amour de l'homme.
Et une prière. Ce chant est une prière. L'œuvre de Chanson est profondément une prière. Le désert est une prière.
Lui, le protestant sociologique ?
Alors, il était protestant sociologique, mais en réalité, il croyait qu'il l'était, car au fond, il a toujours été croyant. Mais comme ma mère était très, très affirmée dans sa libre pensée, il a quand même réfréné son goût de la religion, qui s'est déchaîné chaque fois qu'il est allé à la guerre, puisqu'il se précipitait tout de suite sur le rabbin, le curé et le pasteur. Et il aimait beaucoup parler autour du livre avec un grand L.
Mais cette revendication du tutoiement vis-à-vis de Dieu, s'adresser directement au Père, est-ce qu'il pratiquait ce type d'échange avec Dieu? Avait-il une relation?
Ah mais ça, je ne sais pas. Dieu pourrait nous le dire. Je sais que quand ma mère est morte, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit lui qui était fort malade d'abord, il était dans un désarroi, un chagrin immense et je savais pas du tout comment il le prendrait. Je me suis même pas posé la question, mais je lui ai pris les mains et je lui ai dit « Papa, le Seigneur est avec toi ». Il s'est mis à pleurer, il m'a dit « Oui, je crois que c'est vrai ». Difficile de parler de ces choses.
C'est magnifique.
Ça m'avait beaucoup frappé en lisant la dernière page presque de « Il faut vivre vieux », parce que il s'est évidemment beaucoup, non pas dévoilé, c'est pas ça, mais il s'est beaucoup expliqué sur cette question-là. Il termine ce livre avec un mot qui reste comme un gong à la fin. Tac ! Éternité. Et puis, il dit aussi, presque textuellement, j'ai pas les mots en tête, mais presque, mon écriture est une prière. Écrire, c'est prier. Le travail d'écrivain est une prière.
Un jour, quelqu'un lui a dit « Pourquoi écrivez-vous ? » Et il a répondu « Pour le salut de mon âme. » Mais je crois qu'on en est tous là, même si on s'en rend pas compte.
Bien sûr.
Les paroles, vous les transcrivez, François-Pierre Niserie, dans votre ouvrage. Pourquoi donner dans un anthropomorphisme dérisoire? Ça, c'est la question de départ. Mais plus loin, il y a tout de même dans l'ordre naturel quelque chose qui aurait un caractère bienveillant, qui serait une valeur de refuge, de prise en charge pour l'éternité. C'est dans cette notion, comme vous nous l'indiquez, d'éternité, de permanence, de la durée, que se situe la réflexion spirituelle d'André Chanson.
J'aime bien que vous évoquiez le mot de durée, le temps, parce que c'est aussi quelque chose qui traverse toute l'œuvre de Chanson. C'est un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure en parlant de la résistance et en parlant de la liberté. Dans la tour de Constance, la chose qui m'a le plus frappé, emporté, c'est le temps.
Le temps.
40 ans dans ce lieu. Et 40 ans avec quelque chose qui est comme une horloge du temps qui passe. La mesure du temps, c'est l'odeur.
L'odeur du temps dans ce trou.
L'odeur du trou.
Ouais.
Pestilence.
Ouais.
C'est infâme. L'odeur, et les ouvrages d'André Chanson en donnent une...
Oui.
On a presque l'impression d'être là, de sentir cette odeur. Cette odeur est la chose qui donne la pleine mesure du temps et qui fait que effectivement cette œuvre se situe dans la durée, elle prend le temps comme une sorte de témoin, et c'est ça aussi la prière.
Mais 40 ans, c'est aussi 40 ans dans le désert.
Évidemment.
Et c'est les 40,
on vient au désert.
Les 40 jours de Jésus. Et
bien sûr.
C'est très, 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 très important. Et il y a toujours... comme l'eau d'une source invisible qui remonte, il y a la Bible qui remonte dans l'œuvre, dans la chanson.
Tout à fait.
Et ça sourd tout le temps. Et c'est cette chose de l'odeur, de l'humiliation des corps condamnés à une promiscuité non voulue. C'est terrible. Et la tour de Constance est un endroit extraordinaire, parce que c'est comme dans les arènes où on sent encore le sang des martyrs et des bêtes immolées, où on entend encore les cris de la foule dans la mémoire invisible. La tour de Constance, on sent cette douleur extraordinaire qui traverse les siècles. Et ça aussi, ça fait partie de notre héritage de pauvreté.
Et oui, mais c'est un héritage qui... nous appartient à tous, humains. Ce n'est pas seulement un héritage protestant. Je me permets de dire que je m'approprie cet héritage.
Mais vous avez parfaitement raison. Et moi, je pense souvent à une phrase magnifique de Frédéric Mistral, que mon père révérait, là aussi. Royaliste, catholique, c'est extraordinaire. Cette espèce de choix qu'il a fait de Mistral. Et là, enfin, je m'appelle pas Frédéric pour rien. Je devais être un garçon, c'est loupé, tant pis, tant mieux. Et donc, Mistral, un jour, dit « Ne nous moquons jamais des prisonnières de la tour de Constance. ce sont les Saintes Maries des protestants.
Donc, Marie Durand est une sorte de sainte.
Oui, je ne sais pas si elle a envie qu'on le dise, mais elle s'appelait Marie, hein, quand même. Elle s'appelait Marie.
Je me permets de dire que peut-être elle intercède.
François-Pierre Nisry, comment avez-vous pu écrire « Le protestant André Chanson ne demande rien lorsqu'il prie, il reçoit, il écoute et répond, car la prière protestante n'est pas une imploration, elle naît d'une intimité avec le divin, d'une intimité si étroite qu'elle n'implique nul besoin de formuler une demande. Dieu sait, parle et donne grâce. » Mais le don de la grâce n'est pas la distribution d'une récompense, fut-elle dénommée indulgence plénière ou pas. C'est le catholique qui parle là, à la place d'un protestant ?
Absolument.
Quelle investigation avez-vous menée pour vous mettre dans la peau d'André Chanson et de dire comment prie André Chanson ?
C'est presque un travail d'acteur qui entre dans le rôle.
Oui, mais André Chanson le dit lui-même. Dans sa période de l'Académie, il a été très ami avec le père Carré.
Ah oui, j'allais le dire.
Mais effectivement, la prière protestante, ça m'a effectivement beaucoup troublé. Et ça me trouble encore aujourd'hui quand je fais ma prière de catholique. Parce que par la prière, peut-être que je deviens un peu protestant. Mais pourquoi pas ? Je ne demande pas, je rends grâce, oui. Bien sûr.
Le père Carré disait à mon père, j'admire cette prière qui ne demande rien. Du reste, le père Carré est venu au temple de l'oratoire pour les obsèques de mon père. C'était magnifique. Il l'a soutenu et vu presque tous les jours à la fin de la vie de papa, qui était au Val-de-Grâce. Et il lui disait, cher ami, vous voyez, nous sommes chacun de l'autre bord du fleuve, mais c'est le même fleuve.
Bien sûr.
Et ça, c'est une chose fondamentale. Et il faudrait que le fleuve Dieu coule davantage au vu et au su des hommes avec leur diversité religieuse ou leur diversité religieuse non
avec
religieuse.
Avec leur richesse. La diversité, c'est une richesse. Moi, je reste parfaitement, complètement, profondément catholique. Je n'ai pas du tout envie de devenir protestant parce que j'en ai pas besoin. Mais je peux parfaitement concevoir d'intégrer dans ma forme de prière des éléments du protestantisme. Et moi, je me fie simplement à la vie du père Carré, quand même. Le père Carré, c'est pas n'importe qui.
Ah non.
Il était fasciné par cette forme de prière.
Et concernant André Chanson, François-Pierre Nisry, vous en déduisez que Chanson, lui, grand priant, protestant de cœur, de conscience et de fidélité, ne va pas au temple, mais lui, mystique, selon vous, prie en écrivant.
Absolument. Ah oui.
Est-ce que ce n'est pas la plus belle façon de prier que de faire ce pour quoi on a été mis au monde ? La danseuse danse en priant ou prie en dansant. Le peintre prie sur sa toile. Bon, il y a des gens qui ont besoin d'aller à l'église, au temple, à la synagogue, partout, à la mosquée, pour prier. Il y en a d'autres. Britten était peu vu à l'église, mais il écrivait une musique qui montait droit à Dieu.
Absolument. Quand je dis que je ne suis pas du tout gêné par l'idée d'intégrer une forme de prière protestante dans ma prière de catholique, ça implique également que je puisse intégrer ce qui pour moi a été une découverte formidable, c'est les psaumes de Marot et de Bèze, parce qu'ils ont une force, puissance de verbe, mais que j'avais jamais lu dans aucune traduction biblique actuelle, je dirais, entre guillemets.
Resituez-nous ces psaumes.
Par exemple, « Tant plus de mal il me vient, tant plus de Dieu il me souvient. » Tout est dit, tout est là.
Mais la lecture des psaumes est un bonheur extraordinaire.
Mais en particulier ceux de Marot et de Bèze. Et Dieu sait si Marot, dans les bouquins de littérature française, n'est pas tellement prisé, et même un peu méprisé parfois. Alors que c'est une force du verbe qui est incroyable. Mais il y a beaucoup de Debèze aussi. Marot n'est pas seul, il y a Debèze.
Alors je ne lis pas du Debèze, mais je lis du Pierre Nisry, François-Pierre Nisry. Le chemin du témoignage, le témoignage du sacré, est souvent un chemin de douleur et de disparition, comme si sa force devait passer par son arrachement au domaine de l'humain. Vous nous rappelez, François-Pierre Nizeri, qu'André Chanson lui-même est un voyageur témoin, un voyageur en écriture qui se déplace avec les mots, ses mots, sur une route qui est celle de tous les humains et qui s'appelle l'histoire et le temps, la mémoire et la durée, dont on parlait il y a un instant, la durée. Au niveau de cette mémoire, au niveau de cette transmission, Frédéric Hébrard, vous êtes l'exemple même de celle qui poursuit l'ouvrage.
Oui, c'est très étrange parce que je ne l'avais pas du tout prévu. Vous savez, j'avais 12 ans et demi quand j'ai dit je serai comédienne et je m'appellerai pas Chanson. Mais au fond de moi, je devais sentir que j'étais promise à l'écriture. D'abord, j'écrivais depuis que je savais lire et écrire. Et j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je pense que je savais à 12 ans et demi qu'il fallait pas qu'un jour on demande le dernier chanson sorti et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'œuvre de mon père et la mienne. Et j'ai voulu m'appeler Hébrard du nom d'un arrière-grand-père, le père de Mémé. Et puis la vie a évolué pour moi d'une façon merveilleuse. Celui que j'appelle le grand scénariste m'a fait comédienne, m'a fait aller au conservatoire, rencontrer mon catholique et avoir avec lui une vie extraordinaire d'échange, de partage, 3 enfants merveilleux, des petits-enfants. Et tout ça, petit à petit, je regardais ce qui se passait, particulièrement après la mort de mes parents. Parce que tant qu'ils ont été là, c'était plutôt eux qui regardaient. Je sais que le jeudi à l'académie, papa s'asseyait à côté de ses confrères et leur disait « Elle en est à tant de tirages de son dernier roman ». Je crois qu'il arrangeait un peu les choses de temps en temps. Des amis me l'ont raconté. Et puis, on avait l'habitude d'écrire non pas ensemble, mais d'écrire à côté les uns des autres. Et ce qui est étonnant maintenant, c'est que non seulement j'écris, mais Louis écrit. Notre fille Catherine vient de terminer son 3e roman. Notre fils François écrit avec nous pour la télévision, et écrit avec nous et écrit avec lui tout seul aussi, puisqu'il vit à Los Angeles maintenant. Et sa femme, Fanny Brunette, a publié un merveilleux 1er roman l'année dernière. Donc, quand papa disait, vous avez cité au début de l'émission, « Sommes-nous comme ces familles ?» Eh bien, oui, papa, nous sommes comme ces familles de romanciers du 18e ou de peintres anglais pour qui l'art et la littérature sont le sel de la terre. Et c'est extraordinaire.
Citons pour les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, La Chambre de Goethe, La Citoyenne, Le Harem, qui fut grand prix du roman de l'Académie française, mais aussi Esther Mazel, dernièrement Les Châtaigniers du désert, paru aux éditions Plon. Autant de titres, autant de best-sellers, de même qu'Un mari est un mari, La Demoiselle d'Avignon, Le mari de l'ambassadeur, Le Grand Battre, Le Château des Oliviers, là, c'est dans le domaine des productions audiovisuelles. Donc la mémoire se transmet, même si la forme d'expression est multiple et diverse.
Oui, mais le fait de passer, d'abord je reste dans l'écrit, puisque Les Châtaigniers du désert sont un roman qui va devenir une série pour France 2. Mais je reste fidèle à l'écrit, j'écris à la main, hein. J'ai pas de choses magiques pour taper dessus et voir sur un écran, je sais pas le faire ça. Alors donc j'écris avec un stylo modeste et puis je suis très image aussi. C'est vrai, nous avons fait beaucoup de feuilletons et de séries pour la télévision. Nous travaillons ensemble, ce qui est merveilleux, parce qu'on peut écrire un roman seul, on peut pas faire une série tout seul. C'est le pont du Gard à soulever, c'est très dur. Mais je pense que je suis fidèle à l'héritage en permettant que l'écrit devienne aussi visible pour des gens qui ne sont peut-être pas tous faits pour lire.
Est-ce que cet héritage n'a pas été un jour lourd pour vous à porter ?
Alors, non pas tellement, parce que d'abord, papa était un garçon, j'étais une fille, et puis on chantait pas dans la même tessiture, le minéral, la fleur, mais au fond, on allait vers le même but. Et ça, moi, je le savais pas. Et je le sais depuis que je les ai plus et que je suis devenue la mémoire. C'est très lourd, c'est à ce moment-là que ça a été lourd. C'est-à-dire de tout assumer, et puis vous savez, quand un écrivain disparaît, on a tendance à l'oublier. Et je me suis, alors ça je peux le dire, j'en suis très fière, je me suis beaucoup battue. Et si toute son œuvre est disponible maintenant chez Omnibus, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui y croyaient comme moi, et qui m'ont aidée à ce qu'ils se survivent.
Et vous revenez des Cévennes, dernières heures vous y étiez encore.
Oui, je reviens des Cévennes et je suis contente d'en être revenue parce que c'était vraiment l'enfer blanc. Il y avait du verglas, de la neige, du brouillard, c'était magnifique. Et je me trouvais comme dans un roman d'André Chanson, et je sentais Roulebandit pas loin, je sentais les hommes de la route, je sentais Lucrèce à cheval dans les montagnes, dans la Superbe. Tout ça était, alors là, je vais peut-être vous étonner, mais c'était plus biblique, c'était mythologique. J'étais dans une nature très ancienne, tout à fait païenne, mais où les miens avaient vécu et survécu. Et c'était merveilleux. J'ai rencontré des personnages qui sortaient des romans de mon père. J'ai vu l'hiver. Je n'ai pas pu aller sur ce que j'appelle dans mon livre le tombeau de l'écrivain, puisqu'il y a une scène que nous tournerons sur le tombeau de mes parents. Je voulais pas dire le tombeau d'André Chanson. Je trouve que le tombeau de l'écrivain, ça dit bien ce que ça veut dire. Et mon héroïne, qui est un jeune pasteur, mais attendez, canon, hein, vraiment splendide, merveilleuse. Quand elle dit « je suis pasteur », tout le monde croit qu'elle se moque. Mais il se trouve qu'on peut être belle et aimer Dieu et être aimée de lui. Et alors elle emmène des enfants sur le tombeau de l'écrivain. J'ai pas pu y aller parce que la route était coupée par la neige, mais le tombeau était là. Le tombeau de l'écrivain est là devant nous, à la proue de la montagne, dominant un pic vertigineux, faisant face à un paysage si vaste qu'il semble un grand livre ouvert, le livre où est écrite l'histoire de ses enfants. Quelle belle journée!
Merci Frédéric Hébrard. François-Pierre Nisery, en quatrième de couverture de votre ouvrage « Le minéral et la fleur » qui vient de paraître aux éditions Bernard Gilson, vous écrivez « André Chanson, le minéral, c'est ainsi qu'il définissait lui-même sa nature profonde, est loin de cette image d'écrivain régionaliste et protestant dont on l'affuble trop souvent. Son œuvre, sa pensée, se nourrissent de ses racines, mais surtout leur donne une puissance universelle. » Sur ce mot « universel », vous évoquez les Cévennes, le tombeau de vos parents, le mont Aigoual, ces granites, lui le minéral, ces lieux et ce couple ne font plus qu'un maintenant. Ils ont intégré cette nature cévenole qu'ils ont habitée de leur âme et physiquement. Ils ne font plus qu'un et ils ont une dimension universelle.
C'est ça l'alliance dont on parlait tout à l'heure. C'est ça l'alliance et c'est aussi la portée essentielle de la pensée d'André Chanson qui doit absolument, impérativement, renaître. Et pour cela, on a besoin d'autres héritiers. Les héritiers du sang font leur travail. Les éditions Omnibus, c'est le travail des héritiers du sang. Mon ambition était en l'occurrence, et de bien d'autres personnes, bien sûr. Mon ambition, en quelque sorte, est d'assumer également ma tâche d'héritier, non pas du sang, mais de lecteur, simplement, de l'œuvre d'André Chanson, parce que j'ai envie que cette œuvre, justement, qui a une portée universelle et qui est très actuelle, que cette œuvre soit à nouveau lue, relue. Il faut lire la Tour de Constance. Il faut relire la Tour de Constance, le Puy des Miracles, la Superbe, Roulebandit, le Crime des Justes. Il faut lire et relire tout ça. C'est ça la valeur universelle de l'œuvre dans les chansons. C'est pas seulement la terre, c'est pas seulement les Cévennes, c'est l'alliance, c'est la liberté, c'est la résistance, c'est la mémoire. Et Dieu sait, et je dis Dieu à dessein, Dieu sait qu'au jour d'aujourd'hui, on en a rudement besoin.
Est-ce que ce sont des lectures, les lectures des livres d'André Chanson, imposées dans les classes de terminale ou de première?
J'ai peur que non.
Pas à ma connaissance.
Ouais, il y a beaucoup d'extraits, mais plutôt pour des classes de seconde, troisième. Mais il n'y a pas tellement de choses. Il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Micheline Cellier-Gély, qui a fait une biographie de papa et qui se bat pour lui comme si elle était sa petite fille. Et elle fait un travail, c'est une universitaire, elle fait un travail formidable à l'intérieur du milieu de l'éducation. Et moi, je suis très reconnaissante à François-Pierre Nézeri, à Micheline, à quelques autres, à Dominique Vincent qui dirige Omnibus. Tout ça, je sais que mon père n'est pas mort.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et merci André Chanson de nous avoir accompagnés tout au long de ces minutes de partage de paroles.
Je voudrais moi aussi vous remercier, et vous remercier particulièrement également au nom d'un éditeur belge. C'est un éditeur belge qui a publié ce livre.
Formidable, on le remercie. Au revoir.
Au revoir.
La suite de vos programmes sur Canal Académie dans un instant.